الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Bonne année, c'est ça? Bonne santé? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Meilleurs vœux? Je faisais une conférence hier, puis il y en a un qui a réagi en disant il ne faut pas dire l'année 2010, il faut dire l'année 1431, c'est ça? Parce qu'on est musulman, donc on ne doit pas dire 2010, on doit dire 1431. En vérité, 1431, c'est effectivement le calendrier égyrien, le calendrier qui fait référence à notre histoire musulmane. Mais ça n'empêche pas que nous sommes aussi des musulmans français occidentaux. Donc on dit aussi 2010, il n'y a pas de contradiction. L'un n'empêche pas l'autre. Nous, on peut avoir plusieurs casquettes dans ce domaine-là, n'est-ce pas? On peut avoir plusieurs cultures, on peut même avoir plusieurs identités. Non? Ça vous dérange d'avoir plusieurs identités, non? Une identité musulmane, une identité occidentale, ouais. Plusieurs cultures, une culture pour ceux qui sont d'origine arabe, arabe, culture pour ceux qui sont d'origine gauloise, gauloise. On peut tout mélanger, tout cela, pour faire quoi? Pour faire un être humain doué d'intelligence, équilibré, qui fait tout pour plaire à son Seigneur et aux êtres humains, c'est-à-dire être un bon citoyen. Donc ne vous arrêtez pas à des choses qui ne valent pas la peine, d'accord? Quant à bonne santé, bonne année, la politesse veut qu'effectivement nous souhaitions à tout le monde le bien, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on souhaite à tous les êtres humains, non pas seulement en ce début d'année 2010, le bonheur sur terre et dans l'au-delà, mais si vous croisez un musulman, n'hésitez pas plutôt à lui dire qu'Allah fasse que pour toi cette année soit meilleure que l'année dernière. Parce que bonne année, bonne santé, c'est l'expression de nos sentiments intérieurs, c'est une expression laïque, n'est-ce pas? Parce que bonne année, bonne santé, qui va te donner la bonne année et la bonne santé? Comprenez? Qui est derrière? Ouais. Moi je te le souhaite, c'est vrai, c'est un bon sentiment. Qu'est-ce qui va se passer pour que tu aies une bonne santé, une bonne année? Nous musulmans, vous n'avez pas remarqué, quand on veut du bien à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma. C'est ça? C'est-à-dire, on remonte vers le haut, on interpelle notre Seigneur qui a tous les pouvoirs, on lui dit, Allah, tu donnes à cette personne la santé. C'est ça? Tu donnes à cette personne le bien. Ceux qui ont oublié Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Le sentiment noble qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, c'est ça? C'est-à-dire vouloir le bien aux autres, au lieu de monter au ciel, il va direct vers l'être humain. D'accord? Donc nous c'est un plus, ouais. Nous aussi on a un sentiment noble, on veut le bien à la personne. Mais au lieu que ça sorte de notre fort intérieur et que ça aille directement vers la personne et ça lui fait plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On passe par Dieu qui a tous les pouvoirs, ça va vers la personne quand même, ça lui fait plaisir et ça aura beaucoup plus d'impact puisque notre souhait ne suffit pas. Hein, si Dieu ne veut pas, rien n'arrivera. D'accord? Donc, vous souhaitez au monde entier le bien à travers des formules qui, si la personne est musulmane, reflètent votre spiritualité en faisant des doigts pour les gens. Si la personne n'est pas musulmane, vous lui souhaitez le bien du fond du cœur avec les formules qu'il connaît, qu'il comprend. N'ayez pas besoin de choquer, de bousculer, de déstabiliser les gens. Et au fond de vous-même, vous lui faites des invocations pour qu'Allah lui donne la santé du cœur et la santé du corps. On est d'accord? On polémique pas? Ok? Parce qu'il y a des rigolos, hein? Ouais. Vous pouvez tomber dans leur piège d'ailleurs. Ouais. Qui vont vous dire c'est haram, c'est une bid'a que de souhaiter aux gens le bonheur et la santé en début d'année. Nous, musulmans, nous avons la sunna du prophète, alayhi salam, qui n'a jamais dit bonne santé, bonne année. N'est-ce pas? Ni ses compagnons. Conclusion, celui qui dit bonne année, bonne santé à quelqu'un, il est à côté de la plaque. Nous, nous disons à la personne, tu te plantes en beauté, tu es tombé dans le piège de l'ignorance et du fanatisme. Car notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait des invocations pour toute l'humanité afin que Dieu leur donne la santé du cœur et la santé du corps. Et notre prophète souhaitait le bien à tous les êtres humains. Il va même plus loin, il souhaitait le bien à ses ennemis. Pas mal quand même, hein, n'est-ce pas? Même lorsqu'il l'agressait. Puisque quand ils l'ont agressé, ils l'ont lapidé, c'est ça? L'ange est venu lui dire, si tu veux qu'il soit puni, un signe du doigt et on les efface de la planète Terre. Et le prophète Aïssa dit, non, laisse-les. J'espère que si eux ils ne comprennent pas, leur enfant comprendront. Et lorsque des compagnons sont venus lui dire, ô envoyé de Dieu, implore Dieu contre eux, ces gens, c'est-à-dire notre peuple. Tu vois bien comment ils sont avec nous. Ô envoyé de Dieu, puisque toi, tu as tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, demande à Allah tout de suite qu'il les élimine, qu'il les transforme. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. C'est ça? Et lorsqu'on lui a dit au prophète, maudit les Quraysh, c'est ça? Maudit-les, il a dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour maudire les gens. C'est beau quand même, hein? Il va même plus loin, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ô Seigneur, si jamais j'ai maudit quelqu'un, et j'ai insulté quelqu'un sous l'effet de la colère, parce que ça reste un être humain qui se met en colère, qui oublie, qui peut être affecté durement, donc qu'est-ce qu'il dit? Ô Seigneur, si jamais j'ai maudit quelqu'un, où j'ai insulté quelqu'un par mégarde, par oubli, par colère, par vengeance, alors ô Seigneur, fasse que ma malédiction et mon insulte se transforment en bénédiction et miséricorde pour la personne. Pas mal quand même, hein? Hadith sahih rapporté par Muslim. On aurait souhaité que le prophète nous maudisse, tiens. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, même la malédiction et l'insulte, quand elle sort de sa bouche, avant qu'elle atteigne la personne, elle se transforme en quoi? En... Non, franchement, vous ne trouvez pas que c'est le top? C'est-à-dire, il était tellement bon avec tout le monde et avec ceux qui n'étaient pas musulmans et même ceux qu'il combattait, que il n'arrivait pas à avoir des sentiments de haine et de vengeance. C'est fort quand même. Il y a des rigolos, ils veulent même pas souhaiter la santé aux gens. Ils voudraient que les hôpitaux soient pleins en 2010. Ils voudraient que les gens consomment encore plus de médicaments. Alors il lui dit non. Pas de bonne santé, pas de bonne année. Allah yahdikoum. Il faut pas vous arrêter sur des détails. Il faut aller au fondement. Il faut que vous compreniez votre religion dans quoi? Dans ses bases et ses fondements. Et ensuite, les détails, vous verrez qu'ils s'adaptent et ils changent en fonction des cultures, en fonction des époques. L'idée, le principe doit être au-dessus du mécanisme, au-dessus de l'outil. Hein? C'est pas... l'idée qui doit être soumise à l'outil. D'accord? Ceci étant dit, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les pièges au quotidien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des pièges sur Terre? Bien sûr qu'il y a des pièges. Il y a des pièges qui nous sont dressés par un mec qui s'appelle Shaitan, c'est ça? Ouais, Iblis, qui essaie de nous piéger autant qu'il peut. Il y a des pièges qui sont dressés par... les suppôts d'Iblis, parmi les djinns et parmi les humains. Puis il y a des pièges que nous-mêmes nous créons et on creuse nos tombes et on tombe dedans. Ainsi, un musulman averti en vaut, non, des milliers, ouais, plus que deux. Et le musulman, en principe, a été averti. Hein? Car notre prophète alayhi salam a été envoyé comme Bashir et Nadir. Bashir, il nous annonce les bonnes nouvelles, d'accord? Et le Nadir, il nous avertit, il nous prévient en nous disant faites attention, ça c'est un piège. Et il résume et il nous peint sa mission en disant mon exemple est le vôtre, vous, les humains à qui j'ai été envoyé, c'est l'exemple d'un homme qui se retrouve dans un bois, qui allume un feu, la nuit, la lumière et la chaleur attirent les insectes, cet homme est tellement miséricordieux et soucieux du devenir des insectes qu'il les repousse afin qu'ils ne tombent pas dans ce piège, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui font la sourde oreille, il y en a qui n'arrivent pas à maîtriser leur passion et leur envie, il y en a qui sont têtus, qui veulent d'abord tester, goûter à la chose, quelles que soient les conséquences. Alors ce prophète repousse des insectes, et alhamdoulilah, ces insectes qui ont été repoussés ont été sauvés. Ceux qui ont réussi à échapper à sa politique de prévention sont tombés dans les flammes et ont brûlé. Vous avez vu le piège, hein? Vous avez vu l'objectif du prophète? Il a été envoyé pour nous prévenir, nous indiquer, pour nous dire attention, ceci est un danger. À nouveau, il nous prévient et il nous schématise la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait tous les moyens pédagogiques pour que le message passe. Et ma main coupée, s'il avait la télé, il l'utiliserait. S'il avait une caméra, il l'utiliserait. S'il avait internet, il l'utiliserait. S'il avait un tableau, il l'utiliserait. La preuve, il prend un bout de bâton et il dessine quelque chose sur le sable et leur dit regardez. Il dessine quoi? Il dessine, il fait un trait sur le côté. Ouais, des petits traits, c'est ça. Et il dit ça, c'est la voie qui mène, la voie droite, c'est ça, hein? C'est l'autre mustaqim, l'autoroute. Et sur le côté, vous avez des branchements, vous avez des voies, vous avez des chemins de terre. Et à chaque sortie, ouais, d'autoroute, il y a quoi? Il y a un panneau où c'est écrit c'est moi le diable de l'alcool, c'est moi le diable du sexe, c'est moi le diable de, etc. Car chaque diable essaie de se spécialiser dans un domaine pour vous égarer dans ce domaine particulier. Donc une voie droite, des ramifications durant toute ta vie, il y a des portes, des diables qui les ouvrent et ils t'interpellent, des sirènes qui chantent pour que tu ailles, que tu quittes la voie droite, que tu entres dans ces voies secondaires afin que tu deviennes la proie de ces sirènes. Par contre, celui qui reste sur la voie droite, là-bas, au bout du tunnel, il y a quoi? Il y a une lumière. Cette lumière, c'est le livre de Dieu. Le prophète, alayhi salam, dit, celui qui est attiré par la lumière, celui qui est éclairé par le livre de Dieu, il fait la sourde oreille, il n'entend pas ou il ne répond pas au chant des sirènes. Donc, il trace, il va vite au but et il s'en sort. Donc, des pièges, il y en a. Et il y en a beaucoup. Et il y en a tout au long de notre vie. Et le piège des pièges, c'est le diable qui vient au moment où l'âme veut quitter notre corps et il essaie de nous pousser à quoi? À renier notre religion. Il a juré, le traître, en disant « Seigneur, tant que l'âme sera dans leur corps, je ferai tout pour la détruire. » Et Dieu répond en disant « Tant qu'ils me demanderont pardon, je leur pardonnerai tout ce qu'ils auront fait. » Vous avez vu? Quelqu'un qui essaie de nous sauver et quelqu'un qui essaie de nous piégé jusqu'au dernier souffle. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhu, quand il agonisait, son fils à ses côtés prononçait la shahada pour que son père la prononce. Et l'imam lui fait signe de la tête en disant non. Le fils flippe. Papa, le grand imam Ahmad ibn Hanbal, qui refuse de dire la shahada, c'est quoi ça? Il retrouve ses esprits et à nouveau il prononce la shahada pour que son père la prononce. Et le fils lui dit non. Le père lui dit non avec sa tête. Et lorsqu'il retrouvera ses esprits, qu'il pourra s'exprimer, il lui dira: papa, pourquoi quand je te disais la shahada, tu me disais non? Il disait: car ce n'est pas à toi que je répondais, mais c'était à cette personne qui était devant moi que je voyais, que toi tu ne voyais pas. Tu voyais qui, papa? Il dit: je voyais mon père. Imam Ahmad voyait son père qui lui disait: mon fils, je suis mort chrétien, deviens chrétien. Et je lui disais non. Il a disparu et j'ai vu ma mère. Et elle me disait: je suis juive, mort, meurs juif. Et je lui disais non. Il dit: c'est qui, papa? C'est ton père et ta mère? Il dit: non, c'est Shaitan qui est venu et qui a tenté une dernière fois avec moi, qui a essayé une dernière fois de me piéger. Donc Shaitan, a'latullahi alayhi, il a que ça à faire. C'est concocter, hein, confectionner des pièges, des complots contre l'être humain pour voler notre âme, d'accord, pour l'emmener en enfer, et il a juré. C'est pour cela, nos savants, dès les premiers temps, ils ont développé une littérature, c'est-à-dire toute une série de livres qui ont pour titre Maka'ido al-Shaytan ou Masa'id al-Shaytan, les pièges, les ruses du diable. Hein? Plusieurs savants, Ibn Abi Dunya, l'imam al-Ghazali, tout ça, ils vous font la liste, ouais, des différents pièges à leur époque, selon la technologie de l'époque et selon la performance de Shaytan et son avancement dans l'égarement. Et aujourd'hui, il faut réactualiser ces pièges parce que Shaytan évolue et les êtres humains aussi évoluent. Donc, c'est une science qu'il faut maîtriser. Vous entendez ? Comme on apprend le bien pour le faire, nous devons connaître le mal pour éviter de le faire. Et Omar ibn al-Khattab disait: tant qu'il y aura parmi nous musulmans des gens qui connaissent quoi? Qui connaissent le monde du diable, le monde satanique, qui connaissent la jahiliya. C'est un terme qui signifie tout ce qui est opposé à la lumière de l'islam. Donc tant qu'il y aura parmi nous des gens qui connaissent la jahiliya, on sera préservé de cette jahiliya, car ces gens-là vont nous avertir, vont nous prévenir en nous disant: attention, ça c'est du monde de la jahiliya, ça mène à la jahiliya. C'est pour ça nous avons besoin de gens qui connaissent la jahiliya, qui regrettent leur passé, qui ont demandé pardon. Nous avons besoin de ces gens-là pour qu'ils prennent la parole ou la plume ou le clavier, et qu'ils écrivent et qu'ils nous décrivent ce monde, comment ils ont fait pour tomber dans les pièges, ce qu'ils ont vécu et comment ils ont fait pour s'en sortir, afin que ça serve d'exemple à qui? À ceux qui seraient tentés, hein, d'aller goûter à ce monde satanique et diabolique. D'accord? Je me souviens d'un jeune, Allah yarhamou, il est mort. J'avais été lui rendre visite. Il était atteint du sida. Il était en phase terminale. À Lille, là, du côté de Fallampin, dans un mouroir. C'est là où il les mettait. Donc il était musulman. Donc je suis allé le voir avec un ami. Et il n'était pas beau à voir du tout. Hein. En phase terminale, toutes les maladies et le corps ne peut plus se défendre. Et je lui ai demandé de me raconter comment il a fait pour attraper le sida. Et il m'a raconté. Donc ça commence avec les copains. Vous savez, les copains qui viennent, qui klaxonnent: viens, Farid, Mehdi, on va aller faire un tour. Les parents qui essaient de retenir l'enfant: ne sors pas, où tu vas, les cris, les hurlements, hop, il leur glisse entre les doigts. Et il se barre, avec qui? Avec ses copains. Il est tout content, il est tout heureux, ça roule à fond. Bon, au début on va dans un café, après on va dans une discothèque, ou bien on va au bowling, c'est ça? Ouais. Et tout doucement il s'éloigne, donc la Belgique, après la Belgique on va faire un tour en Allemagne, Et Mskin, cette fois-là, un samedi, il est parti en Allemagne avec ses copains. Alors, vous savez, ces sorties-là, c'est l'alcool, les stupéfiants, la drogue et le sexe. Tout cela dans une ambiance musicale. D'accord ? Avec des supports que vous connaissez. Donc, il y est allé et bien entendu, ils se sont fait plaisir, c'est ça ? Ils se sont éclatés. Un week-end d'enfer. Mais il ne savait pas Mskin qu'il a ramené avec lui la mort. D'accord ? Et quand il l'a appris, le ciel lui est tombé sur la tête, n'est-ce pas ? Et les premiers à l'avoir renié, ce sont ses amis. Vous vous souvenez des copains qui venaient toujours le prendre, le chercher ? Ce sont les premiers à l'avoir renié. Et Allah est témoin. C'est pas, je suis pas en train de vous baratiner. Vous savez ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, ils sont venus le voir à l'hôpital. Pas mal quand même, hein ? Ils sont venus le voir à l'hôpital. Il s'est mis debout, il est allé aux toilettes, il est revenu, ils ont disparu, ils lui ont piqué tout ce qu'il avait. Ok ? Quand ils sont venus le voir, ils l'ont dévalisé, ils l'ont dévalisé. D'accord ? Donc il m'a raconté tout ce qu'il a fait, il m'a raconté comment il a perdu sa famille, comment, bref, un truc vraiment à fendre le cœur, même s'il est en pierre. Et je lui ai fait une proposition, je lui ai dit, est-ce que tout ce que tu m'as raconté, je peux revenir et tu me le racontes une seconde fois, mais je te filme. Comme ça, je vais utiliser tout ce que je viens de me dire quand je fais des interventions aux jeunes. Comme ça, ils verront, ils entendront, ils sentiront, ils toucheront, ils goûteront. C'est du concret, oui ou non ? C'est pas. Il m'a dit oui, mais attends que ça aille mieux. Attends que mon visage se dégonfle. Ouais, parce qu'il ne voulait pas être immortalisé sous cette forme. On l'avait vu vendredi et le lundi, on nous a prévenu qu'il était mort. Donc on n'a pas pu le filmer. D'accord ? Allah yarhamou. Vous avez vu les pièges ? Vous avez vu comment ça coûte cher ? Donc, il faut connaître le mal, non pas pour le faire, mais pour éviter de tomber dedans. Alors, comment le connaître ? Il ne faut pas aller à la faculté où on enseigne le mal, c'est ça, et aller faire des études, des stages, des travaux pratiques. D'accord ? Parce qu'il y a des rigolos, hein. Allez, quoi ? Je vais aller en boîte comme ça, je vais voir ce qui se passe. D'accord ? Comme ça, au moins, je connaîtrai. Non. Le haram, on s'en approche pas. Ça doit rester purement au niveau de la théorie. On est d'accord ? Et c'est sérieux ce que je vous ai dit, hein. Il y a des jeunes qui ont glissé, qui sont tombés dans le piège, rien que par Internet. Ils allaient dans des sites pour voir comment ça fonctionne. Hein, comment les autres les fonds, et à force de goûter, les sites porno, hein, bien sûr. Très bien. Donc allons-y, on va essayer d'évoquer certains pièges, les plus dangereux, les plus sournois. Okay. Le premier des pièges commence à la première heure le matin. D'accord ? Ouais, puisque la journée elle commence le matin. Le premier des pièges, c'est le piège que Shaitan nous tend. C'est une corde, trois nœuds, de l'urine, c'est ça, dans les oreilles, tout ça pour nous empêcher de nous réveiller pour faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le diable il vient, il nous fait trois nœuds, d'accord, et l'être humain est piégé par Shaitan, hein, il est attaché. Qui parmi nous ici n'aime pas dormir, hein, le sommeil c'est un plaisir, n'est-ce pas? Il faut le combattre. Non pas en ne dormant pas du tout, mais en dormant de manière modérée. Alors, ça commence où, ça s'arrête où, la modération, c'est encore une affaire privée. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ceux qui dorment 14 heures par jour, ils ont un problème, il faut les soigner. On est d'accord. Le premier problème qu'ils ont, ça s'appelle la fainéantise. Ouais. Ou l'oisiveté. Ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient, donc ils dorment. Bien, ils ont une autre vie, c'est quoi ? C'est qu'ils ne dorment pas la nuit. non pas parce qu'ils bossent, hein, mais c'est parce que la nuit, il y a des belles choses la nuit, hein, il y a des shayatines, il y a plus d'ambiance, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment la journée. Et comme le sommeil de la journée ne vaut pas celui de la nuit, donc il n'est jamais rassasié, mskin. Tu dors 6-7 heures la nuit, tu te réveilles, t'es en pleine forme, tu dors 12 heures la journée, t'es toujours défoncé, tu cherches encore à dormir. Vous me suivez? Donc, le piège des pièges, c'est quoi? C'est d'entrer en conflit, en contradiction avec les lois de l'univers. Allah a fait la nuit pour dormir la nuit. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. La nuit a pour objectif de quoi? De créer une interruption dans l'activité de l'être humain, afin que son corps se repose, afin que l'on recharge notre corps. Hein? Le sommeil de la nuit est une nécessité. D'ailleurs, qu'est-ce que font les tyrans, les despotes, dans les geôles, où ils torturent les innocents dans les prisons? La pire des tortures, c'est quoi? C'est d'empêcher, hein, le militant là, celui qui ne veut pas se soumettre, c'est de l'empêcher de dormir, d'accord, avec la musique, en le frappant pendant 3, 4 jours, une semaine, jusqu'à ce que la personne délire, voire même devient folle, voire même meurt. Vous entendez? C'est une mort certaine. Donc Allah ybarak fikoum, un des pièges de Shaitan, vous savez c'est quoi? C'est de veiller la nuit sans raison, pour vous empêcher de vous réveiller le matin. Vous entendez? Un des pièges de Shaitan, c'est de veiller la nuit sans raison, pour vous empêcher de vous réveiller le matin. Donc, soyez exigeants et ayez une hygiène du sommeil. Une hygiène du sommeil. Je ne vais pas vous dire de vous transformer en poule, d'accord? Dormir quand le soleil se couche, parce que malheureusement, le soleil se couche tôt chez nous, hein, dans l'hémisphère nord. Mais en tout cas, ne vous transformez pas en veilleur de nuit, hein, qui dormait à des nuits pas possibles, sans raison. Essayez de dormir tôt pour vous réveiller tôt, car celui qui ne se réveille pas le matin, parce que il n'a pas pris les précautions pour se réveiller le matin, il est tombé dans le piège de Shaitan. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ya Rasulallah, je ne me suis pas réveillé ce matin à la prière. Le prophète lui a dit: le diable a uriné dans tes oreilles, il t'a eu, hein, il t'a piégé. Ah, faut les laver vos oreilles le matin, hein, n'est-ce pas? Diable a uriné dans tes oreilles. Et le hadith dit: dès que tu ouvres tes yeux, il y a un nœud qui se défait. Donc vous avez vu, 3 nœuds, 3 pièges. Tu te mets debout, tu vas, tu fais tes ablutions, il y a un deuxième nœud qui s'enlève. Tu fais ta prière et tu t'es libéré, tu es sorti du piège de Shaitan. Le piège de Shaitan qui était t'empêcher de te réveiller le matin. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le hadith dit: et là tu deviens un être humain en pleine forme. C'est ça? Yani, celui qui se réveille tôt le matin, il est pénétré par une baraka, une bénédiction. D'ailleurs, on le dit, le monde appartient à qui? À ceux qui se lèvent tôt. Et le hadith, il dit autrement, il dit: la baraka, Dieu bénit, hein, ceux qui se lèvent tôt et qui vaquent à leurs occupations tôt. Il y a la bénédiction. Hein, les fainéants ne seront pas bénis, ni spirituellement, ni matériellement. Vous avez compris? Ni spirituellement, ni matériellement. Ce serait bien que nos dirigeants politiques arrêtent la télé à partir de 21h. Non, franchement, pour le bien du peuple. Vous trouvez pas? Alors imaginez-vous, au Parlement, nos députés votent une loi. Interdiction d'émettre à partir de 21h. Les télés, les radios, et on coupe Internet aussi. Non, Internet, c'est utilisé par certains pour travailler, même la nuit. Bon, on va laisser Internet. Non, si on laisse Internet, puisqu'ils ne peuvent plus regarder la télé, ils vont utiliser Internet. On enlève Internet, tant pis. Allez, on travaille le jour et tout le monde dort la nuit. Franchement, autre époque, ça serait bon pour la santé des gens, la santé physique et psychologique, même pour la santé familiale, n'est-ce pas? Comme ça, au moins, on éteint la télé, on ouvre la cheminée, puis on s'assoit autour de la cheminée, on boit un thé, un café, et on parle, non? Non, ils n'ont pas le temps de voter des lois dans ce sens. Ils ont le temps pour voter d'autres lois et créer d'autres commissions qui ont pour objectif, hein, ce que vous savez. Mais voilà un problème clair, net et flagrant qui tue nos sociétés. Les jeunes ne dorment plus. Demandez aux enseignants, les profs là, demandez-leur. Fallait qu'ils viennent le matin, ils sont défoncés, les yeux rouges. Les jeunes, les collégiens, même les primériens, c'est ça? Oui, parce que à minuit, à 2h du matin, ils sont encore, hein, devant le petit écran, le moyen et le grand écran. Et ils ne dorment pas. Comment voulez-vous que la journée, ils puissent bosser à l'école? Comment voulez-vous qu'ils puissent assimiler? Leur cerveau ne s'est pas reposé, subhanallah. Mais on ne cherche pas l'intérêt. On ne cherche pas le bien du peuple. Vous entendez? La télé, c'est nécessaire. Il faut que ça fonctionne de jour comme de nuit. Pourquoi? Pour pousser les gens à la consommation ou pour les pousser à la bêtise. Comme ça, ils ne réfléchissent pas. Vous entendez? Et la majorité des gens qui regardent la télé n'apprennent rien de la télé et ils n'évoluent pas au niveau intellectuel. Donc, on les abêtit. Et c'est ça l'objectif. Allah, c'est incroyable. Comment notre monde est hypocrite. Vous entendez? Il est fondamentalement hypocrite. On ne veut pas le bien des gens. Alors nous, nous disons, il faut dormir tôt. On est d'accord, chers musulmans? Ouais. Avant, les films commençaient à 20h30. Juste les infos, le film il commence à 20h30. À 21h45, maximum 22h, il était fini le film. Tu vas dormir. Là, ni ton micro bien. Une demi-heure de pub? Non? Ça a changé, je crois. Ça a changé. Ouais. Ça dépend des chaînes. Très bien. Mais normalement, le film, il commence à 21h. C'est ça? Et il finit, il est 22h30. Tant que tu bouges un peu, il est 23h. 23h30, n'importe quel gosse, normalement constitué dans notre monde moderne, ouais, dort aux alentours de minuit. Et plus un enfant est petit, plus il a besoin de sommeil, c'est ça? Plus il est petit, plus on le détruit. On détruit son rythme. Après, on s'étonne qu'on ait des gosses qui sont hyper excités, hyper actifs, etc. Donc, on est d'accord, un des premiers pièges du diable, c'est As-Sahar. Veiller la nuit sans raison. Ok? Donc, essayez de dormir tôt pour ne pas tomber dans le grand piège du diable qui est une baignoire pleine d'urine. D'accord? Qui va remplir vos oreilles le matin, ou des menottes qui vont vous enchaîner, si bien que vous allez être khabithun nafsi kaslan le restant de la journée. Le hadith dit, celui qui n'a pas réussi à se libérer de ses carcans diaboliques, il sera khabithun nafs. C'est ce que ça dit, khabithun nafs, désagréable. Ouais. Sera, non, on dit, il se lèvera du pied gauche. Ouais. Kaslan, c'est ce que veut dire Kaslan? Rien, aucune volonté, pas de courage, feignant, pessimiste, ne sera pas actif, productif. D'accord? Donc, on se réveille tôt pour échapper au premier piège de Shaitan. Et Shaitan, si on a réussi à se débarrasser de ce premier piège, va continuer. Il a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il va essayer de se rattraper avec d'autres pièges. C'est pour ça que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il y a du dhikr à faire. Hein? Du dhikr. C'est-à-dire, se protéger des pièges du diable le matin à travers des invocations et de l'évocation. Il dit dans un hadith sahih, celui qui dira 10 fois le matin La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est comme il aura fait 10 hasanat, 10 bonnes actions, se sera débarrassé de 10 mauvaises actions, il montera de 10 grades, et ce sera, ces paroles, elles seront pour lui hirzan min ash-shaytan, une protection, une armure contre le diable jusqu'au soir. Et s'il dit ces paroles le soir 10 fois, à nouveau elles seront une protection contre shaytan jusqu'au matin. Pas mal quand même, non? Trouvez pas? Avec qui le fait? Combien de personnes ont le souci de prendre leur chapelet le matin et puis de dire 10 fois? Et bien sûr, si vous le dites 100 fois, c'est le top. Mais allez-y, essayons de le faire 10 fois le matin, 10 fois, de prononcer ces paroles 10 fois le matin, 10 fois le soir. D'accord? Comme ça, au moins le traître, il ne nous aura pas durant la journée. Le problème, c'est qu'il va tout faire pour qu'on oublie de les dire. C'est ça? C'est terrible quand même. Aujourd'hui, demain, après-demain, ouais, on va s'y mettre. Puis dans une semaine, on va oublier, on va baisser les bras. Nous n'avons pas de rigueur à rester constant. C'est ça? On a du mal à rester constant. Pour ça, on vit une spiritualité en dents de scie. Donc attention, vous allez vous mettre au travail, vous allez faire peu qui dure pour l'avoir à l'usure. Hein, shaitan. Jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il se suicide. Qu'il s'éloigne de vous, qu'il dise celui-là, je ne peux pas m'approcher de lui, je brûle quand je m'approche de lui. D'accord? Donc, on se débarrasse de shaitan le matin avec des prières. Alors, le top, l'idéal, c'est quoi? C'est de se réveiller le matin et d'aller à la mosquée. Ouais. Parce que si vous allez à la mosquée, vous savez ce qui va vous se passer? Ça va se passer que vous allez attraper une lumière qui va vous éclairer la journée. Plus tu as de lumière, moins tu tombes dans les pièges. Vrai ou faux? Non? Plus tu as de lumière, plus tu vois clair, moins tu tombes dans les pièges. Et puis, tu vas commencer ta journée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au travail pour ceux qui travaillent, en évitant de tomber dans les pièges du boulot. Le premier piège du travail, c'est quoi? C'est de croire et de penser que notre devoir vis-à-vis de nos familles, c'est de leur ramener à boire, à manger. C'est ça? Le logis, l'éducation intellectuelle, la santé. On va au boulot pour gagner de l'argent, pour entretenir matériellement nos familles. Et ça, c'est un piège. Et c'est un piège dans lequel la majorité des gens aujourd'hui sont tombés. Ils pensent que les bergers, hein, c'est ça, hein, l'homme, ils pensent que c'est ça son devoir. Alors ils courent, mesquine, toute la journée. Et c'est fini les 8 heures par jour ou les 7 heures par jour. Ouais. Aujourd'hui, avec le déplacement, c'est minimum 10 heures par jour. Puisque tu ne peux pas rentrer entre les midis, c'est 12 heures par jour. Vous me suivez? Donc, quand on dit 7 heures par jour, c'est du baratin. D'accord? Et en plus, si vous avez un haut niveau d'études, d'accord? Vous êtes cuit. Pardon. Faites des études, hein. D'accord? Ok, essayez de monter haut. Vous avez eu le dilemme. Ouais. Donc le problème, c'est quoi? C'est on fait ce travail et on le fait bien. Pour, hein, pour tous ces hommes, ces pères de famille courageux, d'accord, qui ont une fierté, qui ne tendent pas la main, mais on est vite piégé. Par quoi? Par un shaitan qui s'appelle notre société matérialiste. Si bien qu'on délaisse l'essentiel, l'éducation de nos enfants. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui est sorti à 6h du matin de chez lui et qui rentre à 18h ou 19h, il trouve encore de la force physique et psychologique pour éduquer ses enfants? Il rentre, il pense qu'il y a une chose, c'est le repos. Il est mort, n'est-ce pas? Il est défoncé, il est usé. La société l'a pressé comme un citron. Son patron l'a pressé. L'administration l'a pressé. Le métro boulot dodo l'a tué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on nourrit nos enfants, les enfants sont bien engraissés, ils grandissent, et quand on ouvre nos yeux, on découvre que ce ne sont plus nos enfants. Les autres les ont éduqués à notre place. C'est ce qui se passe dans notre société. Tu fais des gosses, tu cours, moi je m'occupe d'eux, c'est-à-dire la société. Je vais te les éduquer, pas comme tu veux, comme moi je veux, comme moi j'ai décidé. Ouais. J'investis pas moi dans le vide, d'accord? J'investis pour avoir du résultat. Ton gosse il va rentrer dans une machine, il va ressortir là-bas, ouais, et il sera comment? Comme moi je veux, pas comme toi tu veux. Je vais l'intégrer, je vais l'assimiler. Vous avez entendu? Si bien qu'il aura l'identité que je veux. Pourquoi? Parce que c'est mon projet. Et toi, c'est quoi ton projet? C'est de ramener à manger? Ben, si c'est ça ton projet, tu vas le regretter. Et dans 20 ans, dans 30 ans, tu sais ce que tu vas dire? Si je pouvais revenir en arrière, je leur donnerais du pain dur et de l'eau à mes enfants. Rien que pour qu'ils restent dans le chemin que moi j'ai décidé. Alors, c'est pas un piège, ça? Allah, c'est le piège des pièges. Et moi, je l'ai vu, vous savez où? Dans le centre nerveux de la France. Hein, Paris, sa région, l'Île-de-France. C'est ça? Allah, moi j'ai vu les... Bon, pas tous, alhamdoulilah, il y a des rescapés. Hein, mais la majorité des parents... Ouais, l'homme travaille, la femme travaille à l'extérieur, hein, bien sûr, et ils travaillent 12-13 heures par jour, et ils ne voient pas leurs enfants, les enfants ne les voient pas. Quand ils se voient, ils se croisent, d'accord, pour s'envoyer des insultes, d'accord. Il n'y a plus d'amour. Quelqu'un, quand tu ne le vois pas tous les jours, loin des yeux, loin du cœur, il n'y a plus qu'une relation de rapport de force, c'est ça? Et 30 ans, 40 ans, sans relâche, sans répit, ils se sont quoi? Ils se sont sacrifiés pour des enfants qui les sacrifient. Une fois que ces enfants-là sont devenus adultes. Et ils pleurent, wallah, ils pleurent. Ils regrettent. Alors, comment faire? C'est dur, hein? Ce que je suis en train de dire, c'est amer. Allah, c'est très 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 dur. Comment faire? Comment faire pour sortir de ce piège? Primo, si moi je tombe dans ce piège de manière consciente parce que j'ai pas trop le choix, ben, il ne faut pas que tout le monde tombe dedans. D'accord? Alors les femmes, écoutez, ouvrez vos oreilles. Si le mari doit s'absenter 12 heures par jour, et admettons que ce soit un piège, hein, comme je l'ai présenté, c'est un piège, ok? Puisque le capitaine est absent. Il est absent le jour, et la nuit il est présent, mais il est dans les bras d'Orphée. Ouais, puisqu'il dort, donc il n'est pas là. Donc, si lui, il s'absente, bon gré, mal gré, si lui il a été piégé, pourquoi vous, chère mère, chère épouse, vous allez vers le piège de manière consciente. Pourquoi ? Vous détestez à ce point vos enfants ? Vous les aimez pas ? Mais c'est stupide. Fallait pas les faire, bon sang. Alors, vous allez porter un fardeau qui est lourd, certes, mais vous n'avez pas le choix. C'est votre vie qui est en jeu, car si vous perdez vos enfants, vous avez tout perdu. Si vos gosses grandissent et deviennent des alcooliques, des drogués, des délinquants notoires et tout ce que vous voulez, vous avez tout perdu. Alors ne tombez pas dans le piège qui est de sortir de la maison et de courir après la dunya, parce que ce n'est plus courir après de l'argent nécessaire, c'est du surplus. Il court déjà et ce qu'il ramène est suffisant. Est suffisant. C'est vite dit, ça. Avec la société de consommation aujourd'hui, deux salaires ne suffisent plus, puisqu'on n'arrive plus à joindre les fins de mois, et on s'endette. Vous n'avez pas remarqué, non ? Nous, on dit, oui, il faut que la femme travaille, parce qu'un salaire n'est pas suffisant. Eh bien, prenez, aujourd'hui, en France, les statistiques, et vous allez voir. L'homme, la femme travaillent, donc tous les deux, donc deux salaires, et ils sont tous les deux endettés, et ils font des dossiers de surendettement. Et ils n'en ont jamais assez. S'ils pouvaient faire travailler le chat et le chien, ils le feraient travailler. Pourquoi ? Parce qu'on ne sort pas de la maison pour ramener de l'argent, car on a faim, on a soif, on a froid, mais on sort de la maison pour des raisons généralement qui ne tiennent pas la route, qui ne valent pas la peine. C'est certes pour avoir plus d'argent, pour vivre dans quoi ? Peut-être plus de luxe. Mais à quel prix ? Je ne suis pas contre le luxe. Oh là là, si tu pouvais gagner beaucoup plus que Crésus, ça m'arrange. Moi, tu donneras plus à la mosquée et tu rendras heureux ta famille, tu rendras heureux les êtres humains. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est ce piège dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui. L'homme s'absente et la femme, sans raison suffisante, s'absente aussi. Et après on pleure. Pourquoi ? On perd nos gosses. Mais c'est normal, entre toi et tes enfants, il n'y a pas de relation. Pourquoi tu voudrais que tes gosses ne te fassent pas de mal en te désobéissant ? Ils t'aiment pas. Parce que tu n'es pas là pour qu'il y ait des échanges afin qu'ils t'aiment. Logique ou pas logique ? Loin des yeux, loin du cœur. Vous avez compris ce que j'ai dit, chère femme ? Ne tombez pas dans le piège. Laissez-le courir, Mskin. D'accord ? Parce que j'ai pas d'autre solution à lui proposer. Quant à vous, ne quittez pas votre poste. Ouais. Sinon, l'ennemi va rentrer. Le loup dans la bergerie. Et il va vous manger vos agneaux. Et là, l'argent du monde ne vous suffira pas pour récupérer votre agneau. Et quand vous aurez pris de l'âge, vous n'en ferez plus des agneaux. Un des pièges majeurs de notre société, c'est que on court après la matière et on oublie l'essentiel. Ça devient une routine, ouais, une routine. Nos enfants grandissent vite, on n'a plus le temps de s'en occuper, et une fois qu'ils sont grands, on a des surprises. Ralentissez. Vaut mieux vivre de manière modérée que de vivre à l'aise et perdre ceux qui nous sont chers. quant à la femme, elle n'a pas le droit de tomber dans ce piège, d'ailleurs parce que ce n'est pas nécessaire pour elle. Cela n'excuse pas, vous entendez, celui qui doit courir pendant 10 heures, 12 heures à l'extérieur. Quand il rentre à la maison, il doit faire le maximum d'efforts pour assumer son devoir à la maison qui est éduquer ses enfants. Ne serait-ce que sa présence. Car il y a beaucoup d'hommes qui rentrent à la maison et qui, une fois à l'intérieur, ils ressortent. Vite fait, bien fait. Ils ressortent à travers le câble. D'accord ? C'est-à-dire, ils vont vite s'enfermer dans un monde virtuel, le monde d'Internet ou le monde de la télévision. Et ça, c'est le piège des pièges. Regardez Shaitan, subhanallah. Je vous ai dit, il essaie de nous occuper toute la journée, et tu rentres à la maison et il veut encore te détourner, te distraire. Vous avez compris ? C'est une sirène, ouais, qui veut t'éloigner. T'éloigner de qui ? De tes enfants. Et c'est pas normal que les parents, et les pères en particulier, quand ils rentrent chez eux, ils ne cherchent pas le contact avec leur enfant. Ils ne trouvent même pas du plaisir et de l'amour. Normalement, tu t'es absenté 10 heures, 12 heures, tu rentres chez toi. Oh punaise, t'es heureux, t'es content. Non ? Enfin, vous m'avez manqué. C'est vite dit ça. Toi, tu ne nous as pas manqué. C'est un problème, hein ? Normalement, quand on rentre chez nous, nos enfants doivent être heureux, contents. Mais c'est beaucoup. La famille est pour beaucoup. Excusez-moi les femmes. Hein. Là, elle commence mal pour vous. Astaghfirullah, elle commence bien. Ce sont des conseils. Hein. Celles qui ne se sont pas visées, elles les oublient. Celles qui se sont visées, qu'elles réagissent avant qu'il ne soit trop tard. Si la femme ne prépare pas les enfants pour accueillir le père, si la femme, en l'absence du père, dénigre son mari devant ses enfants, elle dit du mal de lui, elle le critique devant ses enfants, ou quand il est présent, elle ne montre pas à ses enfants, à travers son comportement, la valeur, l'importance de ce père, de ce mari, si cette femme n'exprime pas tout cela, les enfants ne sont pas aveugles, ils voient, ils entendent, ils sentent, et ça crée quoi ? Ça crée un éloignement entre le père et les enfants. Et si la femme veut régler ses comptes avec son mari en utilisant les enfants, ça c'est le top. D'accord ? Pour tomber dans le piège de Shaitan. Et généralement c'est ce qui se passe. Les conflits de couple, qu'est-ce qu'ils ont comme conséquence ? Les enfants sont utilisés pour quoi ? Pour se tirer dessus. Et ça c'est vraiment malhonnête, c'est même criminel. D'accord ? Donc il faut que ce papa, ce père, ce mari qui doit s'absenter miskin, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit, quand il rentre, changer sa tenue de travail et en arborer une autre, n'est-ce pas ? Et il se met au boulot. Un travail cette fois plus agréable, non ? Ouais, mais je suis crevé, je suis fatigué. Oui, je le sais. Mais t'as été désigné démocratiquement comme le responsable de la famille. Et t'as pas le droit de démissionner. Donc tu rentres, tu essaies de donner du temps à tes enfants et du temps à ta femme. Parce que si tu la calcules pas, tu l'oublies elle, tu vas tout perdre. Parce que si tu perds la mère, tu perds la mère et les enfants. On est d'accord ? Si tu perds les enfants, peut-être que tu perds pas la mère. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que on doit être présent. Et c'est pas une question, vous savez, de quantité, hein, c'est une question de qualité. D'accord ? Peut-être une heure, deux heures, quand tu rentres, bien faite, bien répartie, etc., ça peut être suffisant. C'est pour cela qu'il faut essayer de réduire le temps que l'on passe devant tous ces trucs-là, tous ces machins. Surtout Hada. Donc on peut passer à un autre piège. C'est la technologie de pointe là. Ouais. Surtout Internet. Ya Rab, les dégâts que ça fait aujourd'hui dans les familles. C'est terrible. C'est terrible. On discute plus, on parle plus, on s'échange plus, n'est-ce pas? Et puis, ben c'est tout, hein, on se dispute, chacun s'enferme dans son coin, et comme l'être humain n'est pas solitaire, il aime bien échanger avec les autres. Donc tu préfères discuter avec le monde entier, sauf avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec tes enfants. C'est le mutisme à l'intérieur, dans la maison, et c'est le papotage, c'est ça, le commérage, pendant des heures, sans se fatiguer, par le biais d'Internet. Alors si ça c'est pas un piège, billah alaykoum, dites-moi alors c'est quoi le piège de Shaitan? Pire c'est les jeunes garçons maintenant. Ouais. Hein? Le chat c'est ça. Ouais. Pendant des heures ils parlent. Et les garçons parlent avec les filles, subhanallah. Ils cherchent la rencontre, la discussion à travers le net avec l'autre, le sexe opposé. Et ils y trouvent du plaisir. Ouais. Et je vous dis la vérité, il y a un plaisir. On ne va pas le nier, non. C'est humain, c'est naturel. Walakin, c'est un plaisir qui va mener au péché, qui va mener à la destruction de votre âme. Ouais. Et si vous êtes marié, la destruction de votre couple. Ouais. Ah oui, il y en a maintenant, allez, que je vais prendre une deuxième femme. Pourquoi? Bah, écoute, ça ne va pas avec ma femme. Pourquoi ça ne va pas avec ma femme? Elle me prend la tête, je me dispute toujours avec elle. Taïb, elle est où la deuxième? Elle est sur le net. Ouais. En fait, vous savez pourquoi ça va pas avec sa femme? Ça va pas avec sa femme parce que, comme sur le net, il est en contact avec une femme, et l'autre femme, elle lui fait les beaux yeux. Ouais. Hein? Elle est toute mignonne, elle est toute gentille. Bah, automatiquement, bah, il compare. Ouais. Elle dit c'est une sorcière, ouais, elle me crie toujours dessus, etc. L'autre elle est toute gentille. Et c'est vrai, hein. Les statistiques sont là pour nous prouver cette vérité. En Île-de-France, donc toujours le cœur, hein, le centre, hein, l'archétype, en Île-de-France, 3 femmes sur 4 qui ont divorcé de leur mari sont reparties avec qui? Avec leur collègue de travail. Vous entendez? 3 sur 4. Elle tège son mari. Pourquoi? Parce que 8 heures, 10 heures par jour, elle est avec qui? Elle est avec son collègue. Et quand elle est avec son collègue, comment ça se passe à votre avis? Ben, il est sympa, elle est sympa. Et en plus, à midi, ils mangent ensemble. Au resto, ou au café, ou au McDo. Vrai ou faux? Et en plus, elle, avant de sortir le matin, elle s'est préparée, mais ou non? Ah oui, elle va au boulot, il faut être présentable. Lui aussi d'ailleurs. Toutes les conditions sont créées pour qu'elle oublie son mari ou qu'il oublie sa femme. Toi, musulman, tu fais attention à tout ça au boulot, c'est ça? Walakin, il y en a. Ils voient pas de mal sur Internet à dialoguer, à chatter comme il dit, c'est ça? Non, à draguer. C'est tout, c'est le khodou fi le qaoul. C'est comme ça que ça s'appelle, la drague. Ouais. Alors que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme se retrouve seul avec une femme, il y a un troisième, c'est qui? C'est Shaitan. Et voilà, un autre piège de Shaitan. C'est le fait de se retrouver seul au téléphone. Ouais. C'est pas seul seulement physiquement. Parce que je peux me retrouver seul avec une femme physiquement, je suis aveugle, sourd, muet, elle est sourde, muette, aveugle, et il n'y a pas de problème. D'accord? Pour le peu que je suis handicapé, je ne peux pas aller vers elle. Vous comprenez? Ce n'est pas le physique, c'est l'échange, hein, qui va voir le jour lors de cette rencontre. Et l'échange, il peut se faire à distance, lorsqu'il n'y a pas quoi? Lorsqu'il n'y a pas une pression extérieure qui peut être la crainte de Dieu ou le regard des gens. Ainsi, Allah ybarak fikoum, arrêtez le massacre. D'accord? Arrêtez le massacre. Si vous avez sur votre portable, hein, des centaines de numéros de téléphone, vous les effacez. Ok? Hein, les jeunes filles là, hein, qui passent leur numéro, tiens mon numéro, Vous rendez compte? Ma fille, son portable, je l'ouvre. Abdel, Abdel. Il n'y a que des Abdel. Mais c'est quoi ça? Elles sont où les filles? Il y a plus de mecs que de meufs sur son portable. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour faire des maths? C'est ça? L'histoire? Non, mais c'est la réalité au quotidien. Sans transition, un des pièges de Shaitan, même trop fort, trop puissant, c'est justement c'est cette facilité de communication qui existe aujourd'hui. Vrai ou faux? Et c'est quoi l'objectif du diable? C'est de permettre aux gens de communiquer sans respecter la loi de Dieu pour tomber dans le péché. D'accord? Si tu es seul dans un coin, tu vois personne, personne ne te voit, alhamdoulilah, tu pêches pas. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont retirés du monde, ils sont allés dans les monastères, les couvents. Les zawayas, les takayas, bref, ils s'éloignent de la civilisation, ils s'éloignent du brouhaha, du monde, pour ne voir personne, ne rien entendre, pour ne pas être tenté. Donc, l'objectif de Shaitan, c'est ça. C'est cette mixité sans limite, la communication sans limite entre les êtres humains. Pourquoi? Pour qu'il y ait énormément de péchés. Alors, il faut faire attention. Allahi barik fikoum. Ouvrez bien vos oreilles. Un des pièges mortels dans lequel tombent nos jeunes musulmans aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette communication sans limite, d'ailleurs qui n'a pas lieu d'exister ni d'être. Et je vais être méchant. Vous me pardonnerez ou vous m'enverrez des tomates, à vous de gérer ma méchanceté. C'est, vous êtes responsables, vous, parents. De quoi? De ce qui arrive à vos enfants lorsque vous leur remettez entre les mains des bombes à retardement, qui sont en fait des bombes fabriquées par Shaitan pour que vos enfants tombent dans le piège. Un gosse qui a 8 ans, qui a 10 ans, qui a 12, 13, 15 ans, vous lui remettez un portable, vous l'avez tué, cet enfant. Vous l'avez tué à petit feu. Parce que il ne sait pas comment l'utiliser. Le pire, c'est pas ça. C'est que d'autres vont le pousser à l'utiliser mal. Et c'est à travers ça que Shaitan circule. Et le portable aujourd'hui est à l'origine de beaucoup d'égarements. Regardez ce que font nos enfants. Ils ont le portable à l'école. Ils passent leur temps à s'envoyer des SMS. Demandez aux profs, ils sont là. En cours. En cours, vous savez, en cours de maths, d'histoire, d'anglais, il envoie un SMS à qui? À l'autre qui est 3 tableaux dessus. C'est rien, là. Comme ça, ils se parlent entre eux, SMS. Mieux, vous savez quoi? Ils sont portables comme ça, puis ils regardent le film qu'il a téléchargé la veille. Il met un écouteur, avec les écouteurs qu'il y a aujourd'hui, très discrets. Ouais. Il écoute la musique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empêché votre enfant d'être concentré, d'être studieux. Bon, c'est pas grave s'il rate l'école. Astaghfirullah, j'ai pas dit ça. Hein. Comprenez-moi. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que ton gosse, il rentre à la maison. Tu crois qu'il a abandonné ses copains de l'école? Mais non, ses copains sont avec lui, dans la maison, dans la salle de bain, aux toilettes, dans son lit, et il continue à parler et à échanger. Il textonne pendant des heures interminables, minimum 3 heures par jour. Vrai ou faux? Et à votre avis, il parle de quoi? il parle du mur de la honte qu'on est en train de faire à Gaza. Mur souterrain, hein. C'est nouveau ça. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. D'habitude, un mur, c'est quoi? C'est des fondations et on l'érige. Maintenant, c'est le contraire. On fait des murs vers le bas. Ça n'existe pas dans l'histoire. Hein. Première fois. Il faut le faire quand même. Hein. L'esprit créatif et inventif de nos ingénieurs modernes. Comment? Ouais. Alors, vous croyez que nos enfants parlent de cela? C'est ça? Non. Vous savez de quoi ils parlent. Et petit à petit, pendant 200 jours dans l'année, 365 jours et 365 nuits, 24 heures sur 24, à chaque instant, à chaque moment, t'es à table, tu parles avec ton enfant, un étranger coupe ta discussion. Vrai ou faux? T'interpelles ton gosse, il peut pas te répondre, il est concentré, jusqu'à ce que tu cries, tu hurles. Et ça crée en permanence des conflits avec tes enfants. Parce que ton gosse, il préfère répondre à sa copine qui vient de lui envoyer un SMS. Parce qu'il ne veut pas la rendre triste, Mskina. Imaginez-vous s'il ne lui répond pas de manière instantanée. Quant à son père et à sa mère, qu'ils aillent au diable. Vrai ou faux? Et j'en passe, hein. Et qui est responsable de tout cela? La société. Oh, attendez, laissez-la, celle-là, sa place. Le premier responsable, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ne veulent pas donner 29,90 € à la mosquée, alors ils les donnent à Shaitan. C'est ça? Ils ne veulent pas donner à la mosquée 20 € ou 15 € tous les mois. Alors, Shaitan les a piégés. Ils sont allés mettre 15 €, 20 € par mois entre les mains de leur enfant pour les détruire avec leur denier, leur argent. Vous pigez ou vous pigez pas ce que je suis en train de vous dire? C'est pas catastrophique? Sous prétexte que, ah oui, mais le portable est nécessaire pour nos enfants aujourd'hui. Il faut bien qu'on communique. Et si jamais il a un problème, comment il va faire pour m'appeler? Et si je veux l'appeler, comment je fais? Si je veux entrer en contact avec lui, je fais comment? Quel prétexte! Quel piège du diable! On faisait comment il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans? On faisait comment? Et pourquoi vous voulez que votre gosse vous appelle? Pourquoi vous voulez l'appeler? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'un accident? Je croyais que vous étiez musulman. S'il doit avoir un accident, il l'aura, avec ou sans portable. Vrai ou faux? Non? Si ton gosse, il doit se faire envoler, Allah, il a beau avoir n'importe quel abonnement, n'importe quel portable, il se fera envoler. Ouais, mais j'ai peur qu'il se fasse kidnapper. Wallah al-Azim, si ton gosse doit se faire kidnapper, il se fera kidnapper, qu'il ait oui ou non un portable. D'ailleurs, la première des choses que va faire le voleur, c'est lui retirer son portable. Non, est-ce que vous voyez jusqu'où va notre bêtise? Excès d'amour. Je ne sais même pas si c'est de l'amour. La surprotection, c'est ça? Non. Le piège de Shaitan. Tout simplement, tu vois pas loin, il est uriné dans tes oreilles. Non, astaghfirullah, uriné c'est le matin pour Subh. Il a fait pire quand tu es allé remettre entre les mains de ton gosse une bombe à retardement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein? Ok? Mais je vous dis ce que je vois, ce que j'entends. Ce que je vois et ce que j'entends, et des parents qui pleurent après coup. Vous entendez? Qui pleurent après une expérience malencontreuse, malheureuse. Retirez à vos enfants les portables, et l'argent que vous dépensiez dans ces portables, donnez-le à la mosquée. Hayya bismillah, allons-y. Non, on va peut-être leur retirer les portables, mais l'argent ne le donnera pas à la mosquée. Quand on le donnait pour shaitan, dans la futilité, dans ce qui n'était pas nécessaire et obligatoire, on le faisait sans regret. Et subhanallah, quand on va stopper et on va avoir comme proposition de le donner à la mosquée, on ne le donnera pas. C'est pas shaitan ça? Expliquez-moi. Si c'est pas shaitan, c'est quoi? C'est pas le piège de notre société moderne qui nous pousse à consommer de manière bête et stupide, sans intelligence? Allah yabarak fikoum, c'est le piège des pièges. Attendez que vos enfants soient adultes, vaccinés, pas majeurs. Parce que majorité, ça veut rien dire. D'accord? Il y en a qui sont matures à l'âge de 12 ans, il y en a, ils ont 25 ans, c'est toujours des gamins dans leur tête. Ok? Donc, attendez que vos enfants soient matures. Et que ça soit nécessaire, tout simplement. Portable, c'est un outil de travail, pas un outil de communication pour nos enfants. C'est un piège qui est terrible. Internet aussi, vous le savez. Qu'est-ce que font les gosses aujourd'hui? Papa, il me faut Internet. Pourquoi? J'ai un devoir. J'ai une recherche. C'est ça? Et bizarrement, subhanallah, depuis qu'il y a Internet, nos enfants sont devenus des chercheurs et des rechercheurs. Wallah! Avant, quand il n'y avait pas Internet, ils ne connaissaient pas la bibliothèque, ni les livres, ni les encyclopédies. Bizarrement, un engouement pour la recherche. La recherche de quoi? C'est incroyable, hein? Et on ne voit rien, on ne voit que du feu. Les parents, non, je crois qu'ils voient, je crois qu'ils savent. Mais ils ont du mal à nager à contre-courant. Tu sais, ils ont du mal à quoi? À frustrer le petit enfant, mskin. Mais tout le monde là aujourd'hui, il ne va pas se retrouver seul. Vous vous rendez compte, il ne vit pas son époque. Non, les parents modernes aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est devenu des psychos. Non, attention, attention, attention. Il faut être sage, il faut être psychologue, il faut utiliser la sagesse, il faut utiliser la douceur, l'amour, la tendresse. Mais un gosse, quand il a besoin d'une fessée, il faut une fessée. Vous entendez? Sinon, vous êtes qui? Vous n'êtes plus un père, vous n'êtes plus une mère. Vous avez quoi? Vous avez le droit, le devoir de freiner l'enfant quand il va vers sa perte. Oui. Mais le monseba, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le piège dans lequel on tombe? C'est le père, il met une claque au gosse. Il va chez maman et il trouve le refuge. Hein, oui? Qui vient déchaîner sur son mari et lui dire: pourquoi tu l'as frappé? Pourquoi t'as frappé mon gosse? Ton gosse? Je savais pas qu'il fallait tout seul pour en faire un. Mon gosse! C'est catastrophique. Ouais. Et l'enfant, bien entendu, il est content. Il a semé la fitna. Le shaitan de l'enfant est content. Il a mis la fitna entre papa et maman qui sont tombés dans le piège. L'éducation, c'est la frustration. Eh oui. Et alors, si mon gosse, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'internet, croyez qu'il va en mourir? Croyez que c'est ce qui va le tuer? C'est ce qui a tué la majorité de nos jeunes aujourd'hui. Parce que on en fait un mauvais usage, un usage excessif, quelque chose qui est mal géré, même quand c'est halal, se termine en quoi? En catastrophe. Un autre piège au quotidien dans lequel nous tombons, c'est on se renferme, on devient égoïste et on s'isole. Sous prétexte que le monde est pourri, c'est ça? Sous prétexte que c'est la fin du monde. Ouais. Allah, il y a plein de gens qui disent eh, tu trouves pas que c'est bientôt la fin du monde? Oui, et alors si c'est bientôt la fin du monde, tu fais quoi? T'arrêtes de vivre? Ouais. Tu vas te mettre sur une montagne et puis tu attends, comme le font ces différentes sectes. Ça a toujours été la fin du monde, vous ne savez pas ça? Ça a toujours été la fin du monde depuis le début du monde. Donc arrêtez, laissez la fin du monde de côté et occupez-vous de votre monde. Ainsi, certains jeunes musulmans qui se renferment, deviennent égoïstes, égocentriques, ils se coupent de la communauté sous prétexte que c'est tous les mêmes. C'est ça? Il n'y a pas de fraternité. Non? Regarde. Il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui m'invite. J'avais un problème, il n'y a personne qui m'a aidé. Ouais. Et on sort la liste des griefs. Et on oublie que ce qu'on reproche aux autres, nous sommes les premiers à quoi? À le faire. Il n'y a personne qui m'a aidé. Et toi, t'as aidé quelqu'un? Il n'y a personne qui m'invite. Pourquoi toi t'invites? Et on devient quoi? On devient des égoïstes en puissance. Et ça, c'est le piège des pièges. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le diable, qu'est-ce qu'il mange dans le troupeau? La bête qui s'écarte du troupeau. Et celui qui s'écarte du groupe, il s'éloigne du paradis et il va vers l'enfer et il tombe en enfer. Ainsi, ne vous isolez pas. La mosquée, c'est notre sauvegarde. Fréquentez la mosquée, participez aux différentes activités de la mosquée, participez à la mosquée financièrement, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, bref, toute forme de participation et de présence à la mosquée est plus qu'une nécessité. Sinon, celui qui est à l'écart, il est dans le piège de Shaitan, il est dans la gueule de Shaitan. Et ne me sortez pas comme excuse. Ouais, mais moi, la mosquée, c'est fini, j'y vais plus, j'assiste plus à rien parce qu'il y a des problèmes. Et le vrai problème, tu sais, c'est quoi maintenant? C'est toi qui t'es isolé. C'est ça, tu as voulu fuir une problématique, oui, et tu as créé le problème par excellence. Car si à la mosquée on se dispute, vous êtes bien d'accord que la dispute, la zizanie, c'est la volonté de Shaitan, oui ou non? Donc si tu t'isoles, tu es le résultat de la volonté de Shaitan. Vrai ou faux? Conclusion, ce n'est pas fuir qu'il faut faire, mais c'est rester et participer à quoi? Participer au renouveau et à l'essor de la mosquée avec ma présence positive. Vous entendez? Une présence positive. Je suis là pour désamorcer les bombes, je suis là pour régler les problèmes, je suis là pour participer à une ambiance que moi-même je crée et je pousse les autres à créer positive pour que tout le monde y gagne. Parce que si on fuit la mosquée, on a tout perdu. On a surtout perdu une chance en or pour nos enfants. Pourquoi? Pour qu'ils soient, qu'ils restent, qu'ils deviennent musulmans. Vous n'avez pas le droit de fuir, de vous isoler, car c'est le piège de Shaitan au quotidien. Il y en a qui fuient aussi la mosquée, qui s'isolent du gros de la communauté sous prétexte que ces musulmans-là, ils sont égarés. C'est ça? Ces musulmans-là, ils sont... Ah! Ils n'ont pas le bon numéro. Ouais? Ils sont la 68e secte. Ouais? Elle n'est pas bonne. Parce qu'il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est la 73e, c'est ça? Et la 73e, c'est la mienne, bien sûr. Conclusion, je m'éloigne. C'est pas seulement que je m'éloigne, c'est que je les fustige. C'est ça. Je les montre du doigt, je vomis sur eux matin, midi et soir. Je vous rappelle que c'est le gros de la communauté, hein, c'est la majorité de la communauté. Mais lui, en tant que minoritaire, il détient la vérité. Il sait tout. Il reçoit la révélation, je parie, non ? Ouais ? Si, puisqu'il est seul à l'avoir comprise, cette révélation. Alors, il tombe dans le piège de Shaitan. C'est quoi le piège de Shaitan, si ce n'est, justement, de diviser la communauté ? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Et alors, si tu n'es pas d'accord ? C'est parce que tu n'es pas d'accord que tu dois créer une scission. T'es pas d'accord, tu restes. Parce que si t'es pas d'accord avec une chose, ben sache que tu es d'accord avec 9 choses. C'est quoi cette mentalité qui exclut les autres, hein? Je suis pas d'accord, moi, avec ce qui se fait dans cette mosquée. Ah bon? Mais on fait la prière dans cette mosquée. T'es pas d'accord avec la prière? Non, non, la prière, oui. Ben alors, tu viens dire à 2 secondes, je suis pas d'accord avec ce qui se fait dans cette mosquée. Il y a des frères, c'est ce qu'ils disent. Ah, moi, je vais pas à la mosquée de Sabatier. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes sont mélangés. Ouais. Et le fait que les femmes soient derrière, les hommes devant, pour lui, c'est quoi ? C'est sacrilège. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Je détaille pas le fait qu'il est à côté de la plaque, le mec. Ouais, il fume, il n'a rien compris. Très bien. Mais regardez l'imbécilité. Parce que je ne suis pas d'accord avec une chose, je fais une croix sur toute la mosquée. Est-ce que ça a un sens? Ce mec-là va se retrouver seul parce qu'il trouvera toujours chez l'autre le désaccord. Vrai ou faux? Pour cela, celui qui s'éloigne des gens parce que les gens ont des défauts, il va se retrouver seul. Puisqu'il n'y a personne sans défaut. Non, le pire, c'est qu'il va s'éloigner de lui-même, puisque lui-même a des défauts. Il va devenir schizophrène. D'accord ? Il va se transformer en 2 personnes, un hypocrite. 2 visages. Attention, attention au piège de Shaitan, qui ont pour objectif d'exploser cette communauté, de la morceler, de la diviser, au nom de la religion. Vous entendez ? Au nom de la religion, au nom de ton interprétation de la religion, au nom de quoi? Au nom soi-disant d'un sentiment noble, religieux, qui veut que les gens soient sur le chemin droit, car bien entendu, il n'y a que lui qui est sur le chemin droit, les autres ne le sont pas. Barakallahu fik, al-aziz, jazakallahu khairan. Vous avez compris ou je dois traduire en français? Non? Je dois traduire ou ça va? Comme vous ne comprenez pas, je peux être plus direct, hein, je ne peux pas dormir. Okay. Parce que c'est à la mode en ce moment. Ouais. Surtout sur Internet. Ouais. D'accord? Les sites, les Abou. Non, vous ne connaissez pas les Abou? Ouais. Abou Intel a dit que ça y va les fatwas. Ah ouais, des fatwas à dormir debout, voilà. Ouais. Tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? On sème gratuitement la haine, ouais, dans la communauté. Et on sème gratuitement la désolation. Ça, c'est un piège. Et c'est un piège qui est terrible, car Dieu dit dans le Coran, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et il dit, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ne vous disputez pas, ne vous divisez pas, ne vous morcelez pas en parties, chaque partie pense détenir la vérité unique, si bien que vous allez vous tirer dans les pattes, vous affaiblir et vous allez devenir faible et vous allez vous faire manger par votre ennemi commun qui lui va vous manger à toutes les sauces. Il s'en fiche. T'as la barbe, t'as pas la barbe, hein? T'es voilé à moitié intégralement, il y en a rien à cirer. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton identité. Et comme elle n'est pas terrible, elle n'est pas bonne, il est prêt à l'effacer. Donc Allah ybarak fikoum, ne tombe pas dans ce piège, hein, du morcellement, de la division, de la zizanie, de la fitna dans la communauté. Des pièges au quotidien, il y en a encore d'autres. Ouais. Mais si on continue la soirée, je vais vous faire peur. Car vous allez voir des pièges partout. Vous n'oserez même plus marcher. Hein? Par faute de tomber dans quoi? Dans un piège. On va se contenter de ces quelques pièges en sachant que il y a de très bons écrits, surtout ceux de l'imam al-Razali, où il parle des pièges, hein, dans lesquels nous tombons au niveau spirituel. Et c'est bien de s'adonner à la lecture des livres qui font allusion et référence à ces pièges. Ouais. Les livres qui ont pour thématique la tazkiya, hein, la purification des âmes. Donc, essayez de vous procurer l'imam Ibn al-Qayyim, crée un très bon livre, lisez-le, comme ça au moins vous connaîtrez certains pièges. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Juste Hassan, sur ce que tu as dit à la fin, c'est, est-ce que tu peux rappeler, ou peut-être je ne les ai pas entendus, les titres des livres? Tu as cité les auteurs, mais pas les noms des livres.
En fait, vous pouvez lire l'imam al-Razali, hein, tous ces bouquins, les livres de l'imam al-Razali. Ce sont des livres, mais en arabe, c'est une encyclopédie qui s'appelle Ihya'u Ulumi ad-Din, hein, la revivification des sciences de la religion. Ils ont été traduits et édités en plusieurs volumes. Donc, procurez-vous. Puis d'autres de l'imam al-Razali sont très bien. Bon, alors, vous faites juste attention, hein, parfois il y a des hadiths qui ne sont pas très authentiques, qui sont faibles, mais bon, vous allez vite les sentir et les repérer. Ou si vous doutez quand vous lisez quelque chose, vous soulignez, après vous demandez à ceux qui savent plus que vous, peut-être qu'ils vous éclaireront. D'accord. Et puis vous avez aussi deux livres qui sont très bien, d'un très grand savant, d'accord, le précurseur de l'imam al-Razali, qui s'appelle Abu Abdillah al-Muhasibi, al-Harith al-Muhasibi. Hada, il a écrit beaucoup de livres justement sur les pièges, les défauts de l'âme. Ils ont été traduits en français, je ne me souviens plus du titre, mais retenez l'auteur, al-Muhasibi. Et l'imam Ibn al-Qayyim a une encyclopédie spirituelle aussi qui est traduite en français, qui s'appelle Le Sentier des Itinérants en français, Madarijo As-Salikin. Et ils ont traduit aussi dernièrement, et je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, son livre qui s'appelle Al-Fawa'id. Ouais, hein? Al-Fawa'id, il est magnifique. Et un autre livre, et là c'est le top, et je ne le vois plus, hein, dans les librairies, c'est La Pensée Vigile. La Pensée Vigile, Saydul Khatir, de l'imam Ibn al-Jawzi. Ouais. Il est très 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 bien. Le style, il est assez soutenu, hein, la traduction. Et Hada, lui-même, Ibn al-Jawzi, a écrit un livre qui s'appelle Talbis Iblis. Talbis Iblis. Il est traduit en français comment les ruses du diable, non? Les ruses du Satan, c'est ça? De Satan, les ruses de Satan. Talbis Iblis. Alors, vous verrez certaines ruses qui sont démodées, qui sont plus de notre époque, ou qui sont propres à une catégorie de la population musulmane, mais de manière générale, il est plein d'enseignements, parce qu'il nous avertit des pièges de Shaitan. Et puis, vous avez le quotidien, hein, l'expérience, le vécu de tout un chacun, je pense que c'est le meilleur des livres. C'est pour ça, quand vous voyez, vous rencontrez, n'hésitez pas à conseiller. N'hésitez pas à vous conseiller mutuellement, à faire des échanges, pour prévenir l'autre et lui dire attention, ne fais pas ça, je l'ai fait, regarde ce que ça m'a coûté. Il faut se conseiller mutuellement. Allah alam.
Barakallahu fik Hassan pour ton intervention. Juste on va faire une petite pause parce qu'il y a une chose Hassan que avant de passer aux questions réponses, mashallah. Parce que tu as dit une chose qui m'a interpellé, qui m'a encore plus interpellé parce que j'ai appris aujourd'hui que même des savants l'ont béni. Hein, c'est cette histoire de mur. Donc on a ici la chance d'avoir parmi nous un frère responsable du CBSP. Et il va nous en parler un peu plus de ce qui se passe actuellement à Gaza. Mouloud Fadal.
Allez, tu parles du mur en fer là qui sont en train d'enfoncer, voilà, entre Gaza et
l'Égypte.
Et l'Égypte. Et tu dis qu'il y a quelqu'un qui l'a béni, c'est ça?
Oui, ouais, c'est-à-dire il y a le Tantawi qui a c'est pour ça que je te parle de savant entre guillemets,
de pseudo,
voilà, ouais. Et qui a fait une fatwa dans ce sens, c'est un bien de faire ce mur. Donc, parce que ça évite de passer tout ce qui est drogue qui viennent de Gaza, tout ce qui est ainsi. Si donc on est vraiment, alors
mais Gaza est un danger pour l'Égypte, c'est ça,
voilà,
et l'État d'Israël n'est pas un danger pour l'Égypte. Marhaban. حياك الله مولود.
كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك يا اخي.
الله يحفظ ولادك. حياك الله. مرحبا.
كيف صحتك؟
طوفي مولود. طوفي ان اون دو موان فيفر.
الله يلطف بينا ان شاء الله.
امين.
الله يلطف بينا. طوفي توس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ça fait toujours plaisir de venir vous voir, vous rendre visite, savoir de vos nouvelles, vous voir toujours engagé pour connaître votre religion, connaître votre responsabilité dans ce monde. C'est très bien. Et c'est un bienfait de se retrouver tous ensemble dans un lieu béni qui est la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens à vous remercier pour l'année dernière, l'année 2009, dans laquelle vous avez fait preuve de responsabilité. Vous avez soutenu Gaza et les Gazaouis avec vos cœurs, avec vos invocations, avec votre argent. Et cette action dans cette mosquée, elle est pérenne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez échappé à ce piège de Shaytan qui dit que quand vous donnez aux Gazaouis, quand vous donnez aux Palestiniens, les Israéliens vont tout détruire, vous donnez pour rien. Et vous leur dites bien sûr indirectement, si ils détruisent, nous allons reconstruire. Parce que la dernière parole est pour les véridiques. Allah Azza wa Jal donnera la dernière manche, la dernière bataille, la dernière parole pour ceux qui sont véridiques et qui soutiennent bien sûr la vérité. Vous avez bien fait pour Gaza. Le CBSP remercie tous les musulmans bien sûr, mais spécialement cette mosquée qui nous ouvre toujours ses portes. Le frère Mustapha avec les frères du bureau qui continuent l'action de parrainage des orphelins un peu partout en Palestine, surtout à Gaza. Et je vous annonce que nous avons dépassé le seuil de 10 000 parrainages entre enfants nécessiteux, enfants orphelins, handicapés et familles nécessiteuses. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite grâce à votre soutien. Nous avons atteint des chiffres franchement formidables. C'est quelque chose qui est formidable, mon frère Hassan. On ne va pas vous dire les chiffres pour l'instant, on va attendre la fin de notre comptabilité, etc. Mais c'est énorme. Je peux vous dire qu'on a peut-être fait 100% plus que l'année dernière. C'est formidable. C'est grâce à ce qui s'est passé à Gaza. On ne souhaite pas que ça se reproduise par rapport aux événements de Gaza. Mais la générosité, qu'elle vienne, qu'elle reste toujours là, parce que grâce à ça, ils auront toujours l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en vous. Parce que nous sommes tous responsables de la terre saine de Palestine. C'est notre terre à nous tous. C'est notre devoir humain, avant que ça ne se soit un devoir islamique ou quelque chose d'autre. C'est humain. Cheikh Al-Qaradawi, hafidhahullah, quand il a parlé de ce mur de la honte, 30 mètres en dessous. Il y avait une histoire, mon frère Hassan, au fait, c'est pas le premier mur construit en dessous. On parle pas d'Adul Qarnayn. Je te donnerai l'autre qui était fait pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La tombe du prophète.
Nordin Mahmoud, c'est lui qui l'a construit pour sauvegarder, protéger la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, le deuxième est pour protéger Israël. C'est malheureux. Et malheureusement, comme l'a dit notre frère Mustapha, certains pseudo-savants l'ont béni, lui ont donné la légitimité. Ils sont aveugles, ils ne voient pas ce qui se produit en Palestine. C'est vrai, il n'y a plus de bombardements. Je parle massivement, hein, parce que ça existe, hein, toujours, chaque semaine, il y a des bombardements, hein, pour Rafah et pour, soi-disant, les tunnels, etc. Mais ce n'est pas massif comme le premier mois de 2009. Maintenant, il y a toujours le siège. Nous avons envoyé un convoi humanitaire, le CBSP, avec les associations qui travaillent avec, hein, on va dire CBSP Belgique, CBSP Angleterre, etc. Nous avons envoyé un convoi humanitaire de 1 500 000 d'euros. C'était très bien. Ils sont arrivés en Égypte pour entrer à Gaza. Ils ont mis un mois. Et nous avons payé 150 000 euros de frais. Parce que laisser des camions, des fourgons de transport, des ambulances, etc., dans le port, ça coûte cher. Et là, vous voyez, malheureusement, certains qui sont tombés dans les vrais pièges de Shaitan, comment ils font. C'est désolant, c'est malheureux. Ces jours-là, vous voyez Georges Galaoui avec ce convoi humanitaire aussi qui est parti, hein, qui part pour rentrer de la Jordanie ou je sais pas où. On lui demande de partir en Syrie, on lui demande de repartir en Égypte. Et ça coûte énormément cher du point de vue temps, du point de vue argent. C'est malheureux, c'est désolant. On fait tout pour, soi-disant, protéger l'Égypte du mal qui vient de Gaza. Il n'y a pas de mal qui vient de Gaza. À Gaza, il n'y a que des orphelins, que des handicapés, que des femmes veuves, que des femmes de martyrs. Il y a un peuple martyrisé, 1,5 million d'hommes et de femmes emprisonnés. Ils ne peuvent ni sortir, ni rentrer. Il y en a qui n'ont pas vu leur famille pendant 2 ans, 3 ans. Ils n'arrivent pas à les voir. Il y a le père qui perd son enfant, il ne peut pas assister à son enterrement, etc. C'est ça leur réalité. Malheureusement, il y a la construction du mur qui arrive encore. C'est très désolant. 30 mètres en dessous. Le prétexte, c'est quoi? C'est les tunnels d'armes, etc., etc. Mais ils savent bien que ce qui passe vraiment, c'est la nourriture. C'est ce qui passe. Je vous donne cette bonne nouvelle malgré tout. Le CBSP arrive à acheminer les aides médicales, nourriture, l'argent qui entre à Gaza d'une manière, subhanallah al-azim, on pensait jamais avoir cette facilité. Quand il y avait les attaques, on a dit c'est terminé pour le CBSP à Gaza. Maintenant, nous avons rattrapé le retard de 2 ans pour les parrainages de familles et d'enfants. Là, on est presque à jour. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à votre soutien. Soyez toujours avec nous, solidaires avec les Palestiniens. C'est notre devoir et ne tombez pas dans les pièges de Shaitan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Jazakallahu khairan. Et ne soyez pas étonnés, hein, si certains pseudo-savants qui bénissent ces actes criminels. D'accord ? Parce que le vrai savant, c'est celui qui craint Dieu et qui dit la vérité, n'en déplaise au monde entier. Et à certains qui ont des connaissances, ok, et qui sont les suppôts du diable, d'accord, hein, c'est pas parce qu'ils ont la connaissance qu'ils sont automatiquement savants. Abdullah ibn Abbas dit al-ilmul khashia, celui qui a la science et qui craint Dieu, c'est lui le savant. Ok, si tu as la science, quelle que soit la science, tu crains pas Dieu, tu n'es pas savant. Si tu as la science religieuse, tu n'as pas peur de Dieu, tu n'es pas savant. On est d'après la définition du terme savant chez nous musulmans. Et Dieu le dit dans le Coran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ok. Ensuite, ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. D'accord. Ça a toujours existé. des hypocrites, il y en a dans toutes les couches de la société, et ces personnes-là sont utilisées par les despotes, les tyrans, pour justifier les actes criminels de ces despotes et ces tyrans. Mais les peuples ne sont pas aveugles, hein, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On sait tous que c'est injuste, c'est pas bien. Pour ça, sachez de qui prendre votre religion, mais sachez qui écouter et qui suivre. D'ailleurs, vous avez tous, alhamdoulilah, un QI très élevé, et vous savez faire la différence entre le vrai du faux.
Baklofik Simouloud, pour ton intervention. Juste pour rappeler, effectivement, au sein de la mosquée, le CBSP nous a remis quelques dossiers d'orphelins. On avait un objectif, on s'était fixé un objectif avec le CRCM du Nord-Pas-de-Calais. Donc la mosquée s'était engagée à prendre, pas à sa charge, mais a pris l'engagement de trouver 7 personnes pour prendre 7 orphelins. On a atteint cet objectif, mashallah, mais bon, on ne va pas s'arrêter sur si bon chemin. Donc pour ceux qui désirent avoir des orphelins, donc le système, maintenant il est assez connu, je vais essayer de le résumer assez vite. Donc c'est une prise en charge de 50 € par mois. Vous pouvez donner moins par mois, c'est-à-dire, on va dire, avec un minimum de 25 €. Le reste sera comblé par une autre personne. Vous recevez un dossier de l'orphelin avec ses coordonnées, sa photo, les papiers de ses parents, enfin, pas de ses parents, de sa mère en général, vu qu'il est orphelin, et en général, ils sont orphelins du père qui a la charge de la famille. Ensuite, vous recevez des nouvelles chaque année de l'orphelin. Alors, les 3 premiers mois, l'argent n'est pas donné tout de suite à la famille, à l'orphelin, pour éviter au moment où s'il y a une coupure, ça laisse 3 mois pour pouvoir trouver une autre personne qui prendra en charge cet orphelin. Voilà. Donc, il y a encore des dossiers au sein de la mosquée, ceux qui sont intéressés. Et le mieux c'est de passer par un prélèvement automatique, hein, Hassan nous avait parlé de la nouvelle technologie, c'est ce qui marche le mieux. D'ailleurs, à mon avis tous vos abonnements portables, DF, tout ça passe par le prélèvement automatique, et très rares sont les cas où il y a des non-paiements, etc. Voilà, on va ça... non. Oui. Oui, effectivement. Donc c'est ça. C'est-à-dire que, alors il y a des petites, jusqu'à 66% des impôts. C'est-à-dire si vous payez pas d'impôts, ça va rien vous rapporter au niveau des impôts. Si vous payez des impôts, vous pourrez déduire ça de vos impôts. Alors ça dépend de la somme que vous payez pour vos impôts. Vous pouvez pas. Enfin, c'est assez. Mais en général, pour ceux qui payent des impôts, il y a des réductions d'impôts. Bah, vous en profitez pour cette réduction d'impôts. Vous la réinvestissez dans un autre projet. Donc, là, voilà. On va passer aux questions-réponses. Donc sur le thème. On va essayer de rester sur le thème. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ce qui a été dit sur les différents? Ouais. D'accord. Alors juste je vais répéter la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc le frère nous dit que il n'a pas compris l'expression. Donc l'éducation est une frustration. Donc pour lui, en prenant certains exemples du prophète qui a toujours été doux avec les enfants, et notamment il a cité l'épisode avec le prophète qui était parti à Taïf, sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'était fait recevoir méchamment par les enfants de cette tribu à coups de pierre. Et il n'a pas été justement autre chose que doux. Voilà.
Il est évident que l'usage de la douceur, c'est la règle et c'est ce qui est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, d'une demeure, il introduit dedans la douceur, un rifq. si bien que les membres de cette famille deviennent doux et font usage de la douceur. A l'inverse, lorsque Dieu n'a que faire d'une famille parce qu'elle ne mérite pas sa miséricorde, qu'est-ce qui s'installe dans cette famille ? Al-unf, la violence. Et on sait comment ça se termine. Effectivement, le prophète était quelqu'un de doux, quelqu'un de compréhensible, etc., etc. On est d'accord ? Mais cela n'implique pas et n'exclut pas le fait que l'éducation, c'est la frustration. Dans quel sens ? Pas dans le sens de la violence, mais dans le sens de ton enfant, tu dois lui mettre des limites. Et c'est quoi la frustration si ce n'est que le décevoir en lui disant non ? C'est-à-dire en le freinant, en lui interdisant certaines choses. Exemple tout simple. Tu poses à manger, c'est bio, c'est nickel, et ton gosse dit non, je veux pas. Ah bon ? Tu n'as pas faim ? Si, j'ai faim. Mais je veux du chocolat. C'est ça ? Très bien. Effectivement, je veux des frites.
Et tout le monde a compris.
Ça n'a rien. Non, mais il a raison, c'est la réalité au quotidien. La mère, elle fait manger, elle pose à manger, le gosse, il rechigne. Bon, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Par contre, ça, je voudrais bien. Ouais. On se croirait Georges V. Tu vois, il sur commande. Il prend la. Hein, il passe commande. Ouais. Tu me fais ça ce soir. Et ce gosse, j'ai le choix. Soit je suis laxiste, c'est ça ? Et je lui fais tous ses plaisirs. Tant pis pour sa santé. Ok ? Je l'aime tellement. Je veux pas qu'il pleure. Je veux même pas qu'il pense que je pourrais lui dire non. Et là, la porte est ouverte à tous les excès. C'est de la débilité. Ouais. Si on va faire ses courses, on laisse le gosse choisir ce qu'il faut mettre dans le caddie, on est mort, mon frère. Nos dents sont mortes, notre estomac est mort. C'est rien de... Parce que c'est son niveau. Qu'est-ce que je vais faire à mon enfant ? Je vais le frustrer. Ça veut dire quoi, je vais le frustrer ? Ça veut dire, je vais dire, c'est ça que tu vas manger et rien d'autre, parce que c'est ça qui est bon et c'est ça que j'ai décidé, c'est moi qui commande, etc., etc. Ça va pas lui faire, ça va pas lui plaire, et il va manger contre son gré. Il veut pas manger ? Je le mangerai pas ? Oh, c'est pas grave. Allez, va voir ailleurs. Je prends l'assiette, je la mets dans le frigidaire. Prochain repas, j'ai faim. Je ressors l'assiette et il la mange. Et pour jouer dans le vice, je la réchauffe même pas. D'accord ? Non mais attends, je vais aller jusqu'au bout moi. Hein, on fait un bras de fer. Pourquoi ? Pour l'éduquer. Hein ? L'objectif c'est quoi ? C'est que cet enfant apprenne que il n'y a pas de liberté. C'est faux. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a quoi ? Il y a des règles. Ouais. Et il y a des parents qui sont responsables, qui savent ce qui est bon pour l'enfant et ce qui ne l'est pas. Et ils ne le laissent pas se détruire de manière inconsciente. C'est ça que veut dire la frustration. La frustration, ça veut dire, mon gosse, il me dit, papa, j'ai envie d'aller chez mon copain et dormir chez lui ce soir. C'est qui ton copain ? C'est un tel. Tu vas faire quoi chez lui ? Bon, on va regarder un film. Après, on va faire ceci, on va faire cela. Je réfléchis. Je ne connais pas cet enfant. Je ne connais pas sa famille. Mon enfant, je ne veux pas qu'il soit entre de mauvaises mains. Non, tu n'iras pas chez ton copain. Oh, il pleure. Oh, tiens, il y a des mouchoirs. Mais bien sûr qu'il faut... Non, c'est pas qu'on peut lui apporter une explication. Il faut. On est d'accord. Mais si tu ne l'as pas convaincu, tu fais quoi ? Tu le laisses faire ? Non. Donc, quel que soit le cas de figure, ouais, je suis pédagogue, je discute, j'utilise la... C'est évident. Je ne suis pas le despote, le dictateur et le pharaon d'Égypte. Ok ? Qui dit « Wa ma urikum illa ma ara ». Mais je reste quand même celui qui a l'autorité et le dernier mot et qui va frustrer mon enfant en n'assouvissant pas ses plaisirs. Voilà, c'est ça la frustration. Et c'est ça, c'est l'interdit. L'éducation, c'est l'interdit. Les enfants n'ont pas de problème avec ce qui est autorisé. D'ailleurs, nous non plus, on n'a pas de problème avec ce qui est halal, on a un problème avec ce qui est haram. Et Dieu nous frustre. Ouais. Moi, j'ai bien envie d'un petit verre de rouge. Ouais. Pourquoi vous rigolez? Vous aimez pas le rouge? Non? Le blanc? Bon, on va laisser le rouge de côté. Ouais. J'ai peut-être envie d'autre chose, n'est-ce pas? Eh ben voilà. Tu toucheras pas, mon petit. C'est ça que ça. Et si tu. Attention, tu t'approches, tu touches, il y a le fouet. C'est ça? Il y a le fouet sur terre et dans l'au-delà. Alhamdulillah, celui qui est sage. Si t'as pas compris aujourd'hui, tu comprendras demain. Et les enfants, c'est comme ça que ça se passe. Et, vous savez, quand ils sont adultes, ils se souviennent plus des fessées. Hein. Par contre, ton éducation les a préservés, les a protégés.
Et en général, ils te remercient après.
Ah ben, ils ont intérêt.
Ils s'en reconnaissent. C'est un peu limite au niveau du sujet. Donc mon mari et moi, nous nous entendons très bien, nous nous aimons et allons vers la même direction, mais la plupart de nos conflits sont dus à l'environnement familial. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Merci.
Continuez à vous aimer, à vous entendre, c'est très bien, ça fait plaisir, alhamdoulilah, de voir qu'il y a des couples qui fonctionnent. Maintenant, il ne faut qu'en aucun cas vos familles respectives sèment la zizanie dans votre couple. Après votre couple, déluge. Vous entendez? Après votre couple, le déluge. Votre couple est la priorité. D'accord? C'est-à-dire, la femme doit respecter ses parents. Et si ses parents s'immiscent dans son couple, si bien que ça déstabilise le couple, elle prend ses distances avec ses parents pour préserver son couple. Les savants sont unanimes pour dire que toute jeune fille doit obéir à son père dans le bien. Mais une fois qu'elle est mariée, elle n'a plus à obéir à son père. Elle obéit à qui? À son mari dans le bien. Si son père lui dit debout, son mari lui dit assis, elle fait quoi? Elle écoute son mari. Vous entendez? C'est une vérité. Donc faites attention, il ne faut pas vous disputer à cause de vos familles. Je sacrifie toute ma famille, pourquoi? Pour que ça aille bien avec ma femme et mes enfants. Oh, attendez, oh là là, faut que je relativise. Hein. Ok? Vous avez des devoirs envers vos parents. On est d'accord. Mais bon, comme vous êtes quelqu'un de sensé, je crois que c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a certaines femmes, malheureusement, qui créent des problèmes avec leurs beaux-parents. Avec sa belle-mère, hein, on connaît l'histoire de la belle-mère. Ne soyez pas à l'origine des conflits dans la famille, vous entendez? Mais si des familles, malheureusement, veulent déstabiliser le couple, éloignez-vous, prenez vos distances, sauvez votre couple.
Donc, Lofik, une autre question. Assalamu alaikum. Mon mari est présent à la maison physiquement, mais pas sur le plan qualité. Il passe beaucoup de son temps à aider les autres, mais en négligeant ce qu'il a à faire. Donc je suppose à la maison. Exemple, il va réparer la voiture des autres alors que la nôtre est en panne. Il va faire des travaux chez les autres alors que chez nous rien n'est fait. Aidez-nous par vos conseils.
Subhanallah, j'ai eu la même question hier. C'est ça? Avant-hier. La même question avant-hier à la mosquée de Salomine. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est la même personne qui me suit.
Il n'y avait pas la partie sur les travaux.
Il n'y avait pas les travaux. Ouais. Mais bon, c'est pour brouiller les pistes aussi, peut-être. Donc, il est évident que ça n'a pas de sens d'aller faire le bien aux autres aux dépens des devoirs que nous avons à faire. Ouais. C'est une règle en islam. Le surérogatoire ne doit pas être accompli aux dépens de l'obligatoire. Oui? Regardez, je vais raconter une histoire. Sulayman ibn Abi Hatmata radiyallahu anhu, c'était un jeune homme, c'est quelqu'un de très pieux. Un matin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, après la prière du matin, il scrute les gens qui sont à la mosquée et il voit qu'il est absent. Et il se pose la question, pourquoi Sulayman n'est pas présent ? Une fois que le soleil s'est levé, Omar radiallahu anhu se dirige vers le souk. Ouais, souk. Et la maison de Sulayman se trouve sur la route qui mène au marché. Et il en profite pour frapper à la porte. Et la mère de Sulayman, Ashifa, ouvre la porte. Et Omar lui dit salam alaykoum, Oum Sulayman. Ton fils, qu'est-ce qu'il a ? Il est peut-être malade, il est mort, il est en voyage. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas présent ce matin à la mosquée ? Et elle lui a dit, non, il n'est ni malade ni en voyage, mais mon fils, Mskin, il a passé toute la nuit à regarder la télé, à aller sur Internet, si bien qu'il n'a pas pu se réveiller et aller à la mosquée. Vous avez vu ? Hein ? La mosquée, c'est obligatoire. La prière du matin est obligatoire. Lui, il l'a raté à cause de quoi ? Parce qu'il a passé toute la nuit à prier. Il a passé la nuit dans la prière et avant le matin, il tenait plus, il s'est endormi. C'est pour cela qu'il a raté la prière du matin. Et là, Omar ibn al-Khattab lui dit, tu diras à ton fils Sulayman quand il se réveillera que moi, Omar, je préfère dormir la nuit et ne pas prier et me réveiller le matin faire la prière. Vous avez compris ? Ça n'a pas de sens de faire quelque chose qui n'est pas obligatoire et négliger quelque chose qui est... D'ailleurs, Dieu n'accepte pas la nafila si le fard n'est pas fait. Allez, vous faites 83 rak'at avant dhuhr, 253 après dhuhr et vous ne faites pas dhuhr. Ça marche ? Dieu n'accepte pas le surérogatoire tant que l'obligatoire n'est pas accompli. C'est une règle. On est d'accord ? Alors les frères qui veulent faire une umrah, faites d'abord le hajj. Aïe. Non, c'est vrai ou c'est faux ? Des frères qui disent je vais faire la umrah, comme ça je vais m'entraîner. Ouais. Je vais aller voir ce qui se passe. Non. Matrafch, le hajj ça tue personne. Ok ? Non, si, avant ça tuait. Maintenant ça tue plus. Ils ont bien travaillé. Mais non, t'as de l'argent, t'as pas assez pour faire le pèlerinage, laisse-le. Attends un an de plus, une fois que t'as le pactole, tu vas, tu fais ton pèlerinage, après tu fais des umrah. Mais pas le contraire. Oui, mais il y en a qui me disent, ouais, mais c'est un problème de congé. Je peux pas avoir mes congés pendant la période du pèlerinage, mais je peux avoir des congés avant. Quoi qu'il en soit, au lieu d'aller à Tahiti, je préfère que t'ailles à la Mecque. Ok ? Vous me suivez, hein ? Mais... faites attention, l'obligatoire avant le surérogatoire. Donc, ce frère qui va aider les autres aux dépens de sa famille, ça n'a pas de sens. Ok ? Il commence par les siens, il répare sa voiture. Ok ? Si le robinet de sa maison il fuit, il le répare. S'il lui reste du temps, des forces, et il a une bonne intention, il va faire du bien aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, sahih, 1 euro que tu donnes pour l'orphelin, 1 euro que tu donnes pour la mosquée, 1 euro que tu donnes pour le jihad et 1 euro que tu dépenses pour ta famille, le meilleur des 4 euros, celui qui a le plus de poids et de valeur aux yeux de Dieu, c'est celui que tu as dépensé pour qui ? Pour... c'est-à-dire ça n'a pas de sens de donner pour les autres alors que ceux qui sont sous ta responsabilité sont dans le besoin. Commence par tes proches et va vers les autres. Et un hadith dit, il est suffisant comme péché. Tu n'as pas besoin de faire un autre péché pour être condamné. Lequel ? Délaisser ceux qui sont sous ta responsabilité. Hein ? C'est-à-dire ceux que tu dois nourrir, ceux que tu dois protéger, tu les abandonnes et tu vas faire autre chose, mais ça suffit comme péché pour être condamné.
Concernant l'éducation de l'enfant, souvent l'enfant est confronté à des contradictions, à savoir à l'école on lui apprend que l'homme vient du singe, on lui répète autre chose à la maison, l'enfant ne sait plus quoi faire, car il a confiance en son professeur. Que faire, barakallahu fik?
Ce qu'il faut faire, c'est éduquer vos enfants. Vous entendez? Alors, les éduquer au niveau moral, mais aussi au niveau intellectuel. Faut pas se décharger et dire bon, c'est l'école qui s'occupe de l'éducation intellectuelle de mes enfants. C'est faux. Là, et parfois, malheureusement, les résultats ils sont catastrophiques à l'école. Parce qu'on n'apprend pas aux enfants à réfléchir ou à avoir un esprit critique. Ou peut-être dans un domaine. Dans le domaine des maths, on leur apprend à calculer, à réfléchir. Puis quand tu passes à l'histoire, ou à la littérature, ou à la philosophie, on leur dit il faut apprendre par cœur. C'est ça? Et il faut répéter la leçon, sinon tu as zéro. Alors que là-bas, il y a obligation de résultat, clair et net. Non, 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 non. L'éducation intellectuelle, vous devez la faire à la maison, et l'école est là pourquoi? Pour accompagner. Et c'est quoi la base de l'éducation intellectuelle? C'est la réflexion. Il faut apprendre à nos enfants à réfléchir. Et la réflexion vient à travers quoi? À travers le fait de soulever des questions et de trouver et d'apporter ensemble des réponses. Le fait de discuter avec quelqu'un. Le fait de lui soumettre des problématiques et le laisser trouver la solution. Le fait de le confronter à quoi? À tout ce qui est différent de ce qu'il sait, pour qu'il se positionne, pour qu'il se défende, hein, au niveau intellectuel. Donc ça ne doit pas nous déranger qu'à l'école on lui apprenne qu'on descend du singe. Pourquoi mon enfant serait-il perturbé si à la maison je lui apprends que voilà, il y a plein de théories quant à l'origine de l'homme? Il y en a qui disent qu'on descend du singe, il y en a qui disent qu'on descend de l'arbre, il y en a qui disent qu'on descend du chou, il y en a peut-être demain qui vont dire qu'on descend du rat, pourquoi pas? Ok? Et il y en a qui disent qu'on vient du vide, du hasard. Ouais? On est le fruit du hasard. Et nous, musulmans, nous disons on descend d'Adam et Ève. Et vous apportez les arguments. C'est pas vous le dites et vous vous taisez. À moins que vous les ayez pas. Et c'est ça le problème souvent. Fark et Doshei, là, yanté. Quand t'es nul, tu peux pas apporter grand chose à ton gosse. Vous avez vu le problème où il est? Donc, moi, mon gosse, je lui ouvre tous les horizons de la réflexion. Et il ne faut pas avoir peur, parce que si votre gosse lit le Coran, qu'est-ce qu'il va découvrir dans le Coran? Il va découvrir toutes les théories qui sont contraires à notre croyance. Vous n'avez pas remarqué? Dans le Coran, c'est écrit « Wa qala alladhina kafaru ». C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire « Et ceux qui ne croient pas en Dieu disent, deux points, nous descendons du singe ». C'est-à-dire, le Coran est un recueil qui contient des versets qui sont les théories contraires à ce que le Coran veut enseigner. C'est-à-dire, le Coran est rempli de dialogues où le micro est donné à qui? À ceux qui contredisent le Coran. Regardez, Allah donne le micro à Shaitan. Non? وَقَالَ الشَّيْطَانِ. Et le diable dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis pas d'accord avec toi Seigneur. Pourquoi? Pour telle et telle raison. Dieu lui donne la parole. Et après, il lui retire le micro et Dieu parle. Regardez, c'est beau, c'est pas beau? Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu donne le micro à qui? Aux ennemis des prophètes. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ. Les ennemis des prophètes. Il leur donne le micro. Allez, dites ce que vous voulez, ce que vous pensez. Pharaon, il ne parle pas dans le Coran, Pharaon. Alors pourquoi Dieu n'a pas dit non, 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 non. Vous rendez compte, si on met dans le Coran les paroles de Pharaon et quelqu'un les lit, c'est trop dangereux pour sa santé intellectuelle. Au contraire, c'est ça qui fait notre force, nous musulmans, et c'est ça qui fait que certains nous jalousent. Nous, on n'a pas de problème avec les autres croyances, les autres religions. On n'a pas de problème avec les autres. Parce que nous les connaissons. Nous savons comment ils pensent, ce qu'ils veulent et comment ils vivent. Et ça ne nous empêche pas. Depuis qu'on est petit, on se rapproche de Dieu à travers la lecture des paroles de ceux qui renient Dieu. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Allez, tarawih. On lit le Coran et vous savez qu'est-ce qu'on lit? On cite les discours de nos ennemis, nos ennemis spirituels, hein. Et si c'était moi, censure. Si ça tenait qu'à moi, je te fais une censure directe. Je te retire du Coran tout ce que les ennemis du Coran disent. Et je laisse que ce que nous nous disons. Non, ça c'est de la folie de l'être humain. Regardez comment Allah nous enseigne à quoi ? À dialoguer, à parler avec les autres, à connaître les autres, à tendre l'oreille à ce que les autres disent, comment ils pensent. Et vous savez ce qu'on fait après ? On fait comme l'abeille, on prend ce qu'ils ont de meilleur. Et ce qu'ils ont de nul, on le met à la poubelle. C'est comme ça qu'il faut éduquer vos enfants. Et vous verrez qu'ils vont grandir dans la paix, dans l'équilibre. On est d'accord ? Donc n'ayez pas peur du singe. Ouais. Ayez peur, surtout, du portable. Ouais. Hein ? Mauvaise utilisation d'Internet. Et de la télévision. Ça, ça va tuer votre gosse. Un mal singe, mskin, il a été battu en brèche. Il a perte de vitesse, mais alors là, totale.
Il y avait, sinon, il y a sur Internet, justement, une nouvelle technologie. Il y a un frère turc, hein, qui a beaucoup écrit sur cette question. Et je conseille le frère d'aller visiter son site qui
Harun Yahya.
Voilà. Il est assez c'est bien documenté, donc voilà.
Il y a même les livres. Hmm. Hein, ouais. Des livres, hein. Ils sont là-bas, non ?
Oui,
il y en a dans la librairie.
Oui, il y en a la librairie.
Hein, la théorie de Darwin, l'imposture.
Donc c'est pas mal. On va terminer avec deux questions. Donc le rapport à la division et la scission au sein de la communauté, doit-on appliquer le même état d'esprit dans les familles? En effet, beaucoup de problèmes dans nos familles existent qui entraînent disputes, mauvaises ententes, voire liens rompus. Surtout dans nos familles arabes, il y a beaucoup de non-dits sous couvert de pudeur ou de manquer de respect. C'est-à-dire, on ne parle pas par peur de manquer de respect. Qui conduisent à des résultats déplorables au niveau relationnel. Soit les liens sont rompus ou ils sont maintenus, mais beaucoup d'hypocrisie. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour préserver les liens, éviter les disputes sans tomber dans l'hypocrisie relationnelle? Merci.
Donc ça nécessite tout un débat, toute une conférence. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut être réaliste, hein. Les musulmans ne sont pas des anges. Okay, ce sont des êtres humains avec des qualités, des défauts, des faiblesses, des manquements et tout ce que vous voulez. Donc, dans nos familles, dans notre communauté, il y a de tout. Okay. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est propre à notre communauté, pour parler de ceux qui sont d'origine arabe, ou ça existe aussi sans doute chez les autres, puisque ça reste toujours l'être humain. Il y a beaucoup de choses qui sont taboues, il y a souvent de l'hypocrisie, hein, on n'ose pas dire ce que l'on pense parce qu'on a peur de ce que l'autre pourrait penser de nous par la suite. Et on finit par avoir des relations qui ne sont pas profondes, qui sont très superficielles et très légères. Et à la première étincelle, tout explose. Alors est-ce que la solution c'est de faire du rentre-dedans matin, midi et soir, ou est-ce que c'est de maintenir des relations même superficielles et plus ou moins hypocrites? Il faut que chacun gère son quotidien. Et si vous optez pour telle solution et vous pensez qu'il y a plus de bien, optez pour telle solution. Si vous optez pour la solution contraire en pensant qu'il y a plus de bien, vous optez pour la solution contraire. Les deux solutions sont possibles. Tout est une question d'intention et de conséquences et de résultats. En résumé.
Alors, une dernière question. Alors, j'ai pas très bien compris personnellement. Que dire quand on se fait passer pour l'oncle méchant pour faire discipliner les enfants? Donc, il doit parler de ses neveux.
Alors, oui, bon, ça, c'est dans la famille. Pareil qu'un qui doit souffler le chaud et l'autre le froid. Non, on n'a pas besoin d'être méchant. Hein. Il faut être juste. Et il faut, quand il faut corriger un enfant, il faut le corriger. Puis une fois qu'on l'a corrigé, bah, s'il faut être, il faut être doux, gentil, agréable avec lui. Hein, il n'y a pas une conduite à garder en permanence avec quiconque. Hein, on s'adapte au comportement des autres avec toujours comme intention d'essayer d'être le plus juste, d'essayer d'être le meilleur. Le danger, c'est de ne pas avoir de pitié, de miséricorde et d'amour. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son petit-fils et qu'il l'a embrassé en présence d'un homme qui s'appelle Al-Aqra' ibn Habis, Al-Aqra' a été choqué. Il a dit au prophète, tu embrasses les enfants ? Choqué, t'embrasses des gosses ? Le prophète lui dit, pourquoi toi non ? Il a dit, moi j'en ai 10, j'en ai jamais embrassé un. Ok, donc c'est le mec qui est froid, sec, sans pitié, etc. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le rappeler à l'ordre en lui disant, que veux-tu que je te fasse? Okay? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tout ce que je vois, c'est que Dieu a extirpé la miséricorde de ton cœur. C'est-à-dire, tu as un cœur dur comme de la pierre, tu n'as pas de miséricorde, d'amour et de pitié. C'est-à-dire, tu es à côté de la plaque. Ar-Rahimuna yarhamhumullah. Les miséricordieux, Dieu sera miséricordieux avec eux. Donc la tendresse, l'amour, la miséricorde, etc., la douceur, c'est la règle. Ouais. La dureté, la méchanceté, etc., c'est l'exception quand on n'a pas le choix. Vous avez pigé ? Mais c'est magnifique. Vous êtes les meilleurs.
Donc c'est une question d'un frère qui se demande donc au sujet des enfants de Yaqub donc qui ont jeté leur frère dans le puits. Le prophète Youssouf sallallahu alayhi wa sallam, peut-on dire quelque part que le prophète Yaqub n'a pas réussi l'éducation de ses fils alors qu'il était prophète?
Il y a une manière de parler des prophètes. Ouais. On doit beaucoup de respect aux prophètes. On ne doit pas leur faire du mal. Dieu dit Ayyuhal ladina amanu, la takunu kal ladina adaw Moussa. Oh, vous qui croyez, ne faites pas comme ceux qui ont fait du mal à Moïse. Ils ont fait du mal à Moïse. Toute sa vie lui ont fait du mal. Donc, une manière, quand on parle des prophètes, on leur doit le respect, la révérence, etc. Deuxième remarque, est-ce qu'un prophète peut se tromper, oui ou non ? Oui, un prophète peut se tromper, mais la différence entre un prophète et le reste des êtres humains, c'est que lorsqu'un prophète se trompe, Dieu ne le laisse pas dans son erreur. Il le corrige de suite. D'accord ? Hein, il le rattrape de suite. Parce qu'il est un modèle et un exemple. Est-ce qu'un prophète peut se tromper dans la révélation, dans la transmission de la révélation ? Non. Le prophète ne peut pas se tromper dans la transmission de la religion. Il ne peut pas se tromper. Quatrièmement, est-ce que le fait qu'un prophète n'ait pas eu de résultats dans son travail de prédicateur, ça implique qu'il n'était pas à la hauteur ou qu'il a commis des erreurs? Non, car il y aura des prophètes qui seront ressuscités avec des millions de fidèles qui les ont suivis, certains avec deux, certains une, certains zéro. Donc est-ce que c'est un échec? Ce n'est pas un échec, c'est que ces gens-là tout simplement n'ont pas voulu croire. Ok, donc un prophète, lorsqu'il a des enfants, il les éduque. Si ces enfants ne veulent pas suivre l'éducation des parents, c'est que ces enfants-là ont fait un choix délibéré. Ce qui n'implique pas que le prophète n'a pas éduqué ses enfants comme il se doit. Sinon, on n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on dirait de Yaqub ? Qu'est-ce qu'on dirait de ces prophètes qui avaient de Nuh et son fils ? C'est ça ? Qui n'a pas voulu le suivre ni obéir. Et qu'est-ce qu'on dit aussi du prophète Noé ou du prophète Lot qui avait des épouses qui n'ont pas voulu les écouter, les suivre? D'accord. Et ça, c'est bien la preuve. Ouvrez vos oreilles. Les enfants le fils de Nuh, ou les épouses de Lot et de Nuh, ou les fils de Yaqub qui vont se repentir, hein? Ok, ils vont reconnaître leur faute, ils vont se mordre les doigts et ils vont devenir des prophètes. Vous m'entendez, hein? Ce sont les Asbat, les 11 fondateurs des 11 tribus, les 11 tribus. Ah, mais c'est un problème aussi. D'accord. Donc les enfants de Yaqub s'appelait aussi Israël. D'accord. Mais bon, ça n'a rien à voir avec vous savez. Donc qu'est-ce que je disais, mon Dieu. Maintenant je voulais dire quelque chose. Oui, c'est bien la preuve, très bien. C'est bien la preuve que l'être humain est libre, oui ou non ? Hein ? Bien sûr. Donc l'être humain est libre de croire ou de ne pas croire. Mais c'est aussi la preuve que personne ne peut forcer quelqu'un à croire, oui ou non ? La religion ne s'impose pas. Car si quelqu'un aurait dû imposer la religion, ce serait le prophète à son fils ou à sa femme, ou à un proche, puisque le prophète il a quand même des pouvoirs extraordinaires, et en plus ça l'arrange pas, hein, quand c'est son épouse, elle est pas. Donc ça c'est la preuve, et c'est ce que Dieu nous enseigne à travers ces histoires qui sont dans le Coran, que l'islam enseigne la tolérance, la liberté et l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa croyance et son choix.
Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été écrit, comment on peut savoir alors que l'éducation qu'on a donnée à nos enfants était bonne ou mauvaise, vu qu'il se peut très bien qu'après, il dévie.
Tu peux très bien lui donner une bonne éducation, et après, il dévie. Hein. Attention. Hein. Exactement, tu as l'obligation d'agir, mais tu n'as pas l'obligation du résultat. Sinon, il n'y aurait aucun enfant ingrat, puisque tous les parents veulent que leur enfant soit les meilleurs. Non, je fais le maximum et après, je ne suis plus responsable. Le danger, c'est quand tu fais rien, ou tu le fais peu, ou pas assez, ou tu fais mal. Donc, on n'éduque pas par hasard. L'éducation, c'est un savoir-faire, c'est une science. Pour cela, qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre, il faut lire, il faut discuter, il faut se renseigner, il faut assister à des stages de formation. D'accord ? Ça, il faudrait lancer ça, hein, Mustapha. Ouais. Il y a des futurs mariés ici. Avant de se marier, il faudrait qu'ils fassent un stage, tout simplement.
C'est la seule profession que tout le monde fait, pratiquement, et où il n'y a pas de formation.
Catastrophe.
Alors les médecins on les forme, les ingénieurs on les forme, les maçons on les forme, il n'y a personne qui va ramener un maçon qui n'a pas été formé pour construire sa maison.
Ouais. Hein?
Mais les parents, ils ne sont pas formés. Et tout le monde passe par ça.
Et tout le monde devient parent. Et c'est le métier le plus dur. On voit les résultats. D'accord ? Donc il faut aller vers ceux qui ont le savoir, vers ceux qui ont l'expérience. Pourquoi ? Pour ne pas commettre d'erreurs et pour être quelqu'un d'averti. Sinon, effectivement, hein. Et généralement, vous savez ce qui se passe. On n'est jamais satisfait en tant que parent de l'éducation qu'on a apportée à nos enfants. On souhaite toujours revenir en arrière pour faire mieux que ce qu'on a fait. Vous entendez ? C'est pour cela, on est impatient de devenir grand-papa, grand-parent. C'est pourquoi ? Pour se rattraper sur ses petits enfants, et puisque on a de l'expérience, donc on va mieux les éduquer. C'est pas toujours vrai, parce que la grand-mère, comme elle a pas eu le temps de chérir outre mesure ses enfants, son excès d'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le retranspose sur le petit-fils, la petite-fille, et elle les gâte. D'accord. Donc faites attention, restez toujours Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fik Hassan. On va s'arrêter là. Donc je vous remercie de votre présence. Vous serez tenu au courant, inchallah, des prochaines interventions mensuelles, donc au niveau du site ou par affichage, etc. Je t'ai demandé, Hassan, de dernier mot, une doua.
Alors, tenez bon, vous êtes les meilleurs, d'accord ? Vous en êtes conscient quand même ? Ok ? Les frères d'ici et des environs, Allah ibarak fikoum, vos cotisations à la mosquée, ouais. Prélèvement automatique, et ceux qui ne cotisent pas encore, vous sortez pas d'ici sans venir voir le président, le trésorier, vous laissez vos coordonnées, vous payez vos cotisations. La cotisation à la mosquée est plus qu'une obligation, c'est un devoir vital. Et ceux qui sont d'ailleurs et qui ne cotisent pas là où ils sont parce qu'il n'y a pas de mosquée ou parce que ils ne veulent pas cotiser dans cette mosquée pour des raisons valables, hein, et ça existe, ok, cotisez ici. C'est logique ou c'est pas logique ce que je dis? C'est logique. Pourquoi cotiser ici? Parce qu'au moins cette mosquée c'est la meilleure, donc votre argent sera pas perdu, il sera entre de bonnes mains, puisque alhamdoulilah c'est une mosquée où il y a des activités, c'est une mosquée qui est ouverte, c'est une mosquée qui est au service de la communauté, dans la transparence, dans l'échange, dans l'amour, etc. C'est la vérité, on ne va pas se voiler la face, malheureusement. Il y a beaucoup de mosquées qui ne font pas leur travail, ou qui ne veulent pas travailler, ou qui ne veulent pas laisser les autres travailler dans les mosquées. Donc il y a la maman qui attend son fils Bilal. Donc est-ce qu'il y a un Bilal ici? C'est toi. Allez, vas-y Bilal. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. C'est bon, on a tout dit. Alhamdulillah. Donc, je vois ici beaucoup de visages, hein, que j'ai pas vu depuis longtemps. Ça fait plaisir de vous revoir. Au moins, Mustapha, n'arrêtez pas ces activités. Ça permet à des gens que t'as pas vu depuis un an de les revoir. Ça fait plaisir. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, que cette année soit meilleure que l'année précédente, que l'année passée. Ne vous arrêtez pas. C'est vrai que c'est dur d'organiser, c'est vrai que c'est dur de faire des activités dans le temps. Walakin, l'année 2009 est passée. Heureusement qu'elle est passée avec toutes les activités que vous avez organisées. Je vous annonce une nouvelle. Ouais, c'est un scoop. L'année 2010 va passer. D'accord ? Avec quoi ? Avec les difficultés, avec les activités qu'on va faire. Donc autant qu'elle passe en ayant réalisé tout ce bien, que la laisser passer sans réaliser tout ce bien. Logique ou pas logique? Logique. Allez. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن. اللهم انبتهم نبتا حسنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ثبت قلوبنا على الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم فك صراح إخواننا هناك وفي كل مكان. اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.